messieurs, merci d'être venus. Entrez, asseyez-vous.
Jusqu'à la demi,
ceux qui arrivent,
moi...
il reste de la place. Bonne petite salle quand même. Donc, on avait le thème de la conférence, soigner la maladie bipolaire. Alors, organiser... Oups. Voilà. Ah ben non, pas encore. Pas tout à fait. Organisé par l'association Argos 2001, pas mal de gens connaissent déjà, puisqu'on voit des têtes fidèles qui reviennent souvent. Donc pour certains d'entre vous, ça sera la même histoire. Ça sera la même histoire. Association d'aide aux personnes atteintes de troubles bipolaires et à leur entourage. Les objectifs, voilà. Aider, mieux connaître et faire reconnaître les troubles bipolaires. Beaucoup de gens dans le public n'imaginent même pas que ça existe. On connaît bien des gens qui ont un comportement un peu énervé de temps en temps et puis un peu au fond du trou de temps en temps, mais bon, c'est pas identifié. Puis on vit avec et puis on vit. Et les patients vivent avec et les proches aussi. Aider les patients à gérer leur maladie, ça c'est. Comment ils vont vivre avec, comment ils vont prendre leur traitement, comment ils vont voir leur psy. Apporter un soutien aux proches. Quand dans une famille ou dans un groupe, une personne souffre de cette maladie, tout le groupe souffre, la famille souffre, les enfants souffrent, le conjoint, la conjointe ou le copain ou la copine. Donc il faut aider les patients et les proches. Favoriser... La recherche médicale, bon, ça c'est un petit peu bateau, mais c'est vrai quand même. Il y a encore du progrès à faire là-dedans. Argos, c'est une association nationale créée en 2001 à l'initiative de patients et de leurs proches. Et c'est d'abord créé sur la région parisienne. C'est le gros noyau dur, Paris. Il y avait 800 adhérents aux dernières nouvelles et 14 antennes en France. Alors ça fluctue un peu. Aujourd'hui, il y en a plus 14. Il y en a un peu moins. Et puis il en est une de temps en temps, puis il en meurt une autre de temps en temps. Alors voilà, c'est un peu la vie du bipolaire aussi, il est en haut et en bas.
Celle de la Vienne est bien passée, non ?
Celle de la Vienne est... si on rapporte au bassin de population, on est aussi bon que Paris, sinon meilleur. Voilà, on est un petit département, mais bon. Une petite région d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, Poitiers... draine des gens des départements voisins, parfois un petit peu lointains, puisqu'on vient de Limoges, une de nos amies est venue presque pendant un an, une fois par mois. Ça faisait une centaine de kilomètres. Des gens viennent du nord de la Charente-Maritime. Voilà, donc on draine, on est antenne de la Vienne, mais on draine un petit peu plus large, bon, c'est pas sectaire. Le siège d'Argos est à Paris et la présidente s'appelle Madame Annie Labbé. Elle est elle-même bipolaire et vit avec ça aussi bien qu'elle le peut, a des responsabilités professionnelles importantes et des responsabilités de bénévoles importantes aussi avec Argos. Argos adhère à la FNAPSI, alors c'est la Fédération nationale des patients et ex-patients de psychiatrie. C'est une des deux grandes fédérations de patients et de proches. Et GAMIAN, c'est une association européenne qui est proche de la FNAPSI. Et donc Argos est adhérente. Alors voilà, maintenant ça change un peu. C'est la cinquième année d'activité. On commence notre cinquième année. Qu'est-ce qui s'y passe ? Des réunions d'information, 10 réunions par an, environ, peut-être même plus, puisqu'en juin, on en fait deux ou trois. Des groupes de parole. Alors, il y en a un peu plus. Alors, j'ai inscrit 14. Je ne me souviens pas comment j'ai fait 14. Compris en juillet-août, même si on ne voit pas... Beaucoup de monde en juillet-août. Pendant 3 ou 4 ans, on a vu une ou deux personnes et ça vaut toujours la peine, même si ce n'est pas la foule. On voit plus de 300 personnes. On a vu plus de 300 personnes et aujourd'hui, il y a environ 35 adhérents rattachés à l'antenne. Bon, après, c'est un petit peu de baratin. Partenariat, avec, on n'est pas obligé de justifier avec qui on fait, avec quoi on fait, mais ce qu'on fait. Donc, on aime bien préciser qu'on est une association indépendante des structures médicales hospitalières et pharmaceutiques. Ce n'est pas parce qu'il y a des dépliants bleus là-bas qu'on est marié avec ce laboratoire, puisqu'il y a d'autres laboratoires qui font des documentations et qui sont intéressantes également. Et qu'ils ont de l'argent, pas nous. Donc, ça me paraît une bonne méthode. On est tous bénévoles ici et on demande à des personnes qu'on a choisies, avec qui on s'accorde sur les objectifs, à nous aider à faire de l'information et tout ça. Donc, on demande à titre personnel, à des personnes à titre personnel et sur leur temps libre, de venir nous aider. Et c'est le cas ce soir. On a des partenariats un peu plus serrés avec la commune de Vouneuil-sous-Biard qui nous prête une salle gratuitement. Le siège social est à Vouneuil. Et l'espace Médès France ici, avec qui nous allons signer dans quelques jours une convention en bonne et due forme pour officialiser au bout de 5 ans. Mais bon, voilà. Donc je pense que c'était important. On a beaucoup de points communs avec l'espace Médès France. On a des projets, enfin sur les projets, on est pas mal d'accord sur beaucoup de choses. Il le fallait. Enfin, agrément de l'association. En juin 2007, l'association au niveau national a reçu l'agrément du ministère de la Santé. Et le 6 février, le préfet de la Vienne a désigné des personnes qui siègent à l'hôpital. Et dans les commissions. Voilà, donc c'est une reconnaissance au niveau national de notre activité. Voilà, j'en aurais fini avec ça. Quelques contacts. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir fermer ça et on va embrayer sur la conférence. Et donc, la conférence, c'est celle-là. Donc, je dois l'avoir ouvert une deuxième fois. Soigner la maladie bipolaire. Donc, je vous présente le docteur Hélène Rose-Reynard et le docteur Diane Lévy-Chavagnat qui vont nous expliquer le traitement, les traitements de la maladie, avec un petit rappel quand même sur la maladie, même si quelques-uns d'entre nous l'ont entendu 5, 6, 7, 8 fois. Allez. Mais ça fait du bien. Bis repetita, placente. Voilà, on va parler entre autres des traitements pharmacologiques, psychothérapeutiques et des ECT, puisque et le docteur Lévy est médecin référent à l'hôpital sur cette technique-là, donc on l'a invité à ce titre-là. À vous.
Tu te mets comme tu veux. Tu veux que je...
Bonsoir. Soigner la maladie bipolaire, c'est quand même un vaste sujet. Et on s'était mis un petit peu d'accord avec M. Lavignotte sur différents points, en particulier refaire des généralités. Alors je suis vraiment tout à fait désolée pour ceux qui l'ont entendu, entendu moult fois, mais bon, je crois que c'est aussi un petit peu important. Alors l'objectif de la réunion de ce soir, ça va être un petit peu revoir très succinctement, je vous rassure, les définitions sur les troubles bipolaires, voir un petit peu de pharmacologie, les traitements médicamenteux. Nous avons pris le parti également de ne pas rentrer trop dans les détails, parce que chaque patient est différent, chaque personne est différente, et pour chaque patient correspond un traitement. D'accord ? Donc c'est vraiment des très très grandes lignes. Peut-être un petit peu, donc le but quand même ce soir, c'était surtout la sismothérapie, hein, l'électroconvulsivothérapie. On va aborder un tout petit peu les psychothérapies et la psychoéducation, qui font partie intégrante réellement du traitement de la maladie bipolaire. Alors, qu'est-ce que le trouble bipolaire ? La terminologie ancienne, vous l'avez tous entendu déjà une fois ou x fois, c'est ce qu'on appelait anciennement la psychose maniaco-dépressive ou la maladie maniaco-dépressive. Et actuellement, et depuis les années 60 à peu près, on appelle ça maintenant les troubles bipolaires ou la maladie bipolaire. Ah pardon, je fais juste une parenthèse. Si vous avez des questions, vous m'interrompez, il n'y a pas de problème. Donc, avec beaucoup de formes cliniques qui sont vraiment très variables. Et en fait, les troubles bipolaires sont des troubles de l'humeur, très simplement, qui sont caractérisés en fait chez un même sujet par des variations tout à fait excessives et disproportionnées de l'humeur. Et ces variations qui sont indépendantes la plupart du temps des facteurs extérieurs. Et en fait, c'est ce qu'on pourrait dire une sorte de problème de régulation de la température émotionnelle. Alors, j'ai un joli petit schéma que j'aime bien, que tout le monde connaît, enfin que beaucoup de gens connaissent. Donc en fait, si on prend notre humeur sur cet axe des ordonnées, on pourrait dire qu'en haut, l'humeur est plutôt joviale. C'est l'état de l'humeur qu'on pourrait dire positive, de bien-être. On est joyeux, bien dans sa peau, optimiste et confiant. Et plutôt vers le bas, où l'humeur est plutôt négative, au cours de laquelle on peut ressentir un mal-être, où on est triste et pas bien. Et en fait, chacun d'entre nous, nous avons une limite en haut et en bas qui permet en fait d'avoir une vie satisfaisante. Vous m'entendrez jamais dire le mot de normal, si je le dis c'est vraiment un oubli de ma part. Donc avec une vie sociale, professionnelle, sentimentale, familiale, satisfaisante. Donc on a tous un seuil en haut et un seuil en bas. Et entre ces deux seuils, on a chacun d'entre nous des fluctuations de l'humeur. D'accord ? Ça va jusque là ? Mon seuil à moi ne va pas être le même que celui de Madame Lévy, que Monsieur Lavignotte. Et c'est ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on a tous un seuil de bien-être ou de tolérance. D'accord ? En fait, on pourrait dire que ce seuil en haut et en bas, ces deux limites sont... comment est-ce que je pourrais dire ça ? Pardon. Peuvent être là, peuvent exister, parce que nous avons tous intrinsèquement un petit régulateur de l'humeur. D'accord ? De la même manière, on pourrait faire le parallèle avec un régulateur... le régulateur de la température que nous avons tous en nous. Okay ? La température, elle est comprise, notre température corporelle est comprise entre 37,2, grosso modo, et 36,8. Et la température varie entre ces deux limites. Si tout d'un coup, je n'avais plus de régulateur de la température, qu'est-ce qui se passerait ? Ben, tout d'un coup, là, je me mettrais à grelotter parce que mon corps serait, par exemple, à 35 degrés ou 30, et tout d'un coup, il pourrait monter à 45. C'est pas viable ça pour l'organisme, d'accord ? Donc on a tous besoin d'avoir ce régulateur de la température. C'est exactement pareil pour le régulateur de l'humeur, d'accord ? Nous avons tous un régulateur de l'humeur et nous avons tous besoin de ce régulateur de l'humeur, d'accord ? Ça va ? Alors on va pouvoir aborder, j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait dire tempérament ou trouble, qu'on appelle la cyclothymie. On connaît tous des gens autour de nous qui sont un peu cyclothymiques, un peu lunatiques, c'est comme ça qu'on les appelle souvent. C'est un petit peu trop au-dessus de cette limite et un petit peu trop en dessous, d'accord ? Sans que ce soit forcément vraiment pathologique. Mais ça peut être assez embêtant pour ces gens-là. Et par contre, il y a quand même un risque d'évoluer vers un réel trouble de l'humeur dans 15 à 50% des cas, ce qui est quand même assez important. Je crois qu'il est important quand même dans les troubles de l'humeur de parler de ce qu'on appelle nous dans notre jargon en psychiatrie la dépression unipolaire. Ce sont des gens, des patients qui en fait ne font que des épisodes dépressifs majeurs caractérisés, d'accord ? Ils ne vont que vers le bas. Donc dans ces cas-là, on leur donne des antidépresseurs qui leur permettra de revenir dans cette zone en haut et en bas, d'accord ? Les gens qui font plusieurs épisodes dépressifs majeurs, nous les appelons les unipolaires dépressifs, et bien sûr, le grand risque, c'est un risque suicidaire majeur. D'accord ? Toujours. Pardon. Ça vous permet de lire comme ça ? Donc en fait, quand on regarde très succinctement, je crois que... les symptômes de la dépression, on va pouvoir caractériser la dépression selon différents critères. Donc au niveau de l'humeur, l'humeur est plutôt triste. On est pessimiste, on pleure, on est parfois irritable, agressif, il y a des idées noires, négatives, on est pessimiste, perte de confiance en soi, diminution de l'estime de soi. Et surtout, ce qui est très important, mais la gravité sont les idées suicidaires, hein, qui sont tout souvent très présentes, et la douleur morale, hein, que les patients décrivent vraiment... comme étant très très présente. Il y a un ralentissement psychique et moteur, c'est-à-dire que les gens se déplacent très lentement, réfléchissent pas très très vite, ils ont beaucoup de mal à se concentrer, il y a des troubles de la mémoire, manque d'énergie, se sentent complètement vides, la fatigue est quasiment constante, et surtout envie de rien, envie de rester au lit, de ne rien faire, envie de voir personne. La perte de l'élan vital et du plaisir, et avec une diminution de l'appétit, une perte de poids, envie de rien, plus goût à rien. Ça, c'est vraiment peut-être un gros symptôme, si je peux me permettre, hein, que les gens rapportent. Les signes associés sont aussi très présents. Les troubles du sommeil, hein, qui peuvent être de plusieurs types, soit d'insomnie, en général plutôt tôt dans la nuit, mais on peut retrouver aussi des difficultés d'endormissement s'il y a une anxiété qui est vraiment associée. Donc l'anxiété, le stress, et dans des cas graves, on peut retrouver des hallucinations auditives ou visuelles. C'est bon jusqu'à là ? Alors voilà le trouble bipolaire de type 1, la PMD, comme elle a été classiquement décrite. Je vous ai passé vraiment l'historique parce que je me suis dit que ça allait faire un petit peu trop long, mais elle a quand même été décrite dans l'Antiquité et reprise et vraiment très finement décrite, j'ai envie de dire un peu cocorico, hein, en 1850 par des Français quand même. Donc ce sont des gens qui font des dépressions, mais qui font au moins ce qu'on appelle un épisode maniaque. Quand on dit un épisode maniaque dans notre jargon de psy, c'est pas je range tout, je suis hyper maniaque, etc. Non, c'est vraiment le miroir de la dépression. Ok ? Donc on va regarder, donc vous voyez, c'est ces grandes variations très très en haut et très très en bas. On est vraiment sur le miroir de la dépression. Donc je vous ai montré la dépression, je vais vous montrer les symptômes de la manie, de l'épisode maniaque. Donc l'humeur autant dans la dépression, je vous dis, c'est vraiment le miroir. Donc là, l'humeur, elle est joviale, très expansive. Les gens peuvent être très euphoriques ou alors très speed, avec une hyperexcitation. Ou au contraire, extrêmement énervé. Dans des cas vraiment graves, on peut avoir même jusqu'à une fureur maniaque, hein, où les gens peuvent tout casser et être extrêmement violents. C'est moi qui fais ce bruit-là ? Pardon.
Non, non.
Si, si. Quand je pousse. Une confiance excessive en soi, une impression de toute puissance, de grandeur, un humour jovial, décalé, déplacé. Ce sont des gens aussi qui vont faire beaucoup de jeux de mots, qui vont avoir une association rapide des idées, qui vont avoir une fuite des idées, qui vont... Une association rapide des idées, ça veut dire, par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Ah tiens, Madame Lévy est assise sur une chaise, la chaise, et puis on rebondit sur autre chose, et autre chose, et autre chose, qui n'a parfois absolument rien comme rapport avec ce qui a été dit antérieurement. D'accord ? Je ne sais pas si je me suis fait très bien comprendre, c'est bon ? Donc il y a une accélération psychique et motrice, c'est les gens qui n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens, qui ne peuvent pas rester assis sur une chaise, ça va très vite dans leur tête. Accélération du débit de la parole, les idées qui fusent dans tous les sens, et parfois les gens le disent eux-mêmes, hein, ça va trop vite dans la tête, ça va très très vite, il faut que ça s'arrête. Passage d'une idée ou d'une activité à une autre, ils sont pleins d'énergie, ils n'ont absolument pas besoin de dormir, et 24 heures ça ne suffit pas, hein, pour la plupart du temps. Pas de fatigue, malgré une augmentation très importante de l'activité. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est vraiment, on est dans le miroir complet de la dépression. Un regain anormal d'énergie, une hyperactivité, désordonnée. Moi, je dis même qu'elle la décrive comme étant souvent stérile, parce que les gens ont tellement plein de projets dans la tête qu'en général, ils ne le finissent pas. Donc ils disent, bah oui, j'ai tel projet, et puis tel autre, et tel autre. Ils ont tellement de choses à faire dans la journée que ils ne savent plus par quoi commencer. Et donc c'est une hyperactivité qui parfois est stérile. Ils ne peuvent vraiment pas commencer quelque chose parce qu'il y a tellement de choses à faire, ils ont tellement de projets. Il peut y avoir un hyperinvestissement dans les activités agréables. Ce qui peut être très très dommageable, c'est les dépenses inconsidérées, les ruines. Il peut y avoir des ruines familiales, c'est tout à fait dramatique. Ces gens-là, alors je vais émailler parfois... mon exposé de petits exemples que j'ai déjà cités, mais que je recite, cette hyper-confiance en soi, leur ouvre des portes qui sont parfois inimaginables. J'ai une patiente qui était au RMI et qui a pu quand même, malgré tout, acheter un immeuble à Royan. Donc ça a occasionné des ruines après dans le reste de la famille, puisque on ne sait pas comment ça peut se faire, mais bon. Une autre patiente qui avait acheté 1000 stylos Montblanc. Alors, ça a l'air de rien, mais hein, c'est déjà pas donné, mais 1000, voilà. Augmentation anormale du désir sexuel. Alors ça fait toujours beaucoup sourire les gens. On dit, ah ben non, c'est pas normal ça. Mais si, ça peut être très embêtant parce que si on a 1, 2, 3, 4, 10 partenaires dans la nuit non protégés, c'est une conduite à risque. D'accord ? Et c'est souvent ce qui se passe. présentation, vêtements inadaptés, en aucun cas c'est un jugement, hein, mais c'est une constatation. C'est par exemple un patient qui arrive avec en pyjama, avec une chaussure, un chausson, un chapeau de cow-boy et une moumoute sur le dos. Quoi. Je veux dire, c'est pas adapté ni au temps, ni... voilà. Les signes associés, il y a souvent une négation indénie de la maladie, refus de soins, parce que quand, souvent ce que les gens rapportent, c'est que quand ils sont dans cet état-là, ou du moins au début, ils sont très bien. Ça, c'est vraiment... Donc non, je ne suis absolument pas malade. Surtout quand ça fait suite à un état dépressif majeur. Enfin, ça va mieux. D'accord ? Parfois, ces patients, malheureusement, ils le décrivent bien, ils disent « je suis à fleur de peau, faut pas me titiller ». Ils peuvent tout d'un coup passer du rire aux larmes. D'accord ? C'est gens qui rient, gens qui pleurent en une seconde et demie. D'accord ? Dans des cas très graves, comme dans l'épisode dépressif majeur, il peut y avoir des idées délirantes. Plutôt de l'ordre mégalomaniaque, c'est-à-dire je suis Napoléon, moi j'ai un patient qui m'avait dit j'ai écrit, alors je ne pourrais plus vous dire le nombre exact parce que c'était j'ai 12 DESS, j'ai écrit 78 millions de volumes, je ne sais pas quoi, ça va être vendu en tant de milliards d'exemplaires. Bon. Délirer, ça veut dire, petite parenthèse, délirer, l'étymologie du terme délirer, ça veut dire sortir du sillon. D'accord ? Donc on sort du sillon, on sort... j'ai envie de dire, de ce qui est le cadre psychique habituel, avec des hallucinations auditives ou visuelles qui sont, dans les épisodes maniaques, présentes quand même dans 48% des cas, ce qui est énorme. D'accord ? Donc juste pour vous remontrer, l'épisode dépressif majeur, mais quelqu'un qui fait un épisode maniaque, un seul, sévère, franc, massif, est diagnostiqué bipolaire de type 1. Voilà. Les risques, on les a vus, l'hyperactivité, les dépenses inconsidérées, les addictions très importantes. En général, c'est un moment de désinhibition très importante. C'est l'hyperjovialité, on rigole, on dit « Salut, docteur Diane, comment vas-tu » Et puis,
on voilà. Il tutoie,
il saute partout. Voilà.
Hein? Ils sont désinhibés.
Très, très désinhibés. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? C'est bon? Continue dans les généralités. Et pour finir, je voudrais vous parler également de ce trouble bipolaire assez méconnu, quoique maintenant, je crois que ça commence un petit peu. On le reconnaît peut-être un peu plus, mais il y a quelques années, c'était vraiment une entité tout à fait à part. Donc ce trouble bipolaire de type 2, ce sont des gens qui font des épisodes dépressifs majeurs, récurrents. On insiste bien en psychiatrie, pardon, pour dire épisodes dépressifs majeurs. En aucun cas, c'est « je suis un petit peu triste, je ne vais pas bien ». Il y a beaucoup de critères pour poser le diagnostic d'épisode dépressif majeur. Donc ces gens-là font des épisodes dépressifs majeurs récurrents et quelquefois des petits épisodes que l'on appelle hypomaniaques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi sévères que les grands épisodes maniaques que je vous ai montrés tout à l'heure. Et ces petits épisodes hypomaniaques peuvent passer totalement inaperçus. D'accord ? Ils peuvent passer inaperçus pour beaucoup de gens, pour le patient lui-même, pour la famille, pour l'entourage et pour les médecins. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, qu'on interroge beaucoup, qu'on voit les gens ici, d'accord ? Et qu'on voit rarement les patients dans cette période hypomaniaque. Et que si on ne les interroge pas longuement, on peut passer tout à fait à côté. Et ces gens-là, ils sont des patients bipolaires, donc vont nécessiter un traitement régulateur de l'humeur. Je commence déjà à vous dire un petit peu les traitements qu'il y a. Alors que les patients qui ne font que des dépressions, d'accord, sans éléments hypomaniaques ou sans éléments maniaques, eux auront besoin d'un traitement antidépresseur. Ça va jusque-là ? Et en fait, l'hypomanie, donc l'épisode maniaque amoindri, les patients trouvent ça très sympa. C'est vraiment ce qu'ils disent, c'est vraiment hyper sympa, on n'a pas besoin de beaucoup dormir, on est plein d'énergie, plein de résistance. C'est plus que trop bien, d'accord ? Parce qu'on est tous à certains moments vraiment très bien. On peut citer plein d'exemples, mais là, c'est plus que trop bien, d'accord ? plus d'énergie, de résistance, plus de confiance en soi, plus de motivation au travail, plus d'activité sociale, plus d'activité physique, enfin, le plus que tout de d'habitude. D'accord ? Ben, c'est sympa, quoique, plus de dépendance, plus de déplacement, plus de prise de risque, l'imprudence au volant. Ce qui peut se passer aussi, c'est que comme il y a une grande désinhibition à ces moments-là, et en particulier quand les gens, ce qu'on dit, qu'on commence à monter, c'est qu'ils prennent plus d'alcool et de toxiques et de drogues. Et dans ces cas-là, sans se rendre compte forcément de leur de cette prise de risque. Ils disent, bah, c'est super bien. Il y a une patiente qui disait, mais moi, de toute façon, j'étais hyper bien, j'allais en boîte, je sortais, je couchais avec deux ou trois personnes, rapport non protégé, et puis je repartais au volant le lendemain, j'étais alcoolisée, mais c'était pas grave, je repartais quand même travailler. Sans se rendre compte, il y a une fausseté du jugement, en fait. Hein, normalement, j'ai envie de dire normalement, pardonnez-moi, je viens de le dire, mais habituellement, elle le disait elle-même, je ne fais jamais ça. C'était pas moi, quoi. Enfin, j'étais complètement différente de d'habitude. Les dépenses excessives, plus d'impatience, d'irritabilité, la concentration qui a diminué, augmentation des pulsions sexuelles, ça aussi, et augmentation de la consommation alcool, café et autres drogues. Ça va jusque-là ? C'est simple, hein ? Alors, je vous ai fait vraiment un petit truc light, hein ? Donc, en super résumé, trouble de l'humeur. J'aurais dû marquer trouble de l'humeur, pardon. La cyclothymie, je l'ai marqué parce que ça peut vraiment évoluer, comme je vous l'ai montré, vers un trouble de l'humeur, trouble bipolaire, franc, vrai, massif. D'accord ? Les dépressions récurrentes, je l'ai aussi noté là, parce que le traitement, quelqu'un qui fait des dépressions récurrentes, c'est-à-dire plusieurs épisodes dépressifs majeurs, peut à un moment donné devenir bipolaire. D'accord ? C'est-à-dire faire un épisode hypomaniaque ou maniaque. Les bipolaires de type 1, un seul épisode maniaque suffit à poser le diagnostic. Bipolaire de type 2, des épisodes dépressifs majeurs et un épisode hypomaniaque. C'est bon ? Bonsoir. Je vais rentrer discret, tu sais. Hein ? Alors, ce qui est surtout très important de comprendre, c'est que, encore une fois, on a tous des changements d'humeur, on a tous des fluctuations d'humeur, et heureusement, vous imaginez une vie sans fluctuation ? C'est terrible, ça. Sans aucune émotion, sans aucune fluctuation d'humeur, ce serait vraiment terrible. Donc, c'est tout à fait physiologique. Mais là, c'est vraiment un changement d'humeur notable par rapport à l'humeur habituelle de la personne. Encore une fois, mon seuil en haut et en bas n'est pas le même que le vôtre, etc. Donc, c'est un changement par rapport à l'humeur habituelle de la personne. Toujours un petit peu compliqué, ça, pour les patients, parce que, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, autant c'est un peu une maladie, sauf dans des cas vraiment francs, massifs, où il y a un épisode dépressif majeur, où c'est bien serré, on le voit bien, ou un épisode maniaque franc et massif, où là aussi on le voit bien, quand ce sont des épisodes hypomaniaques ou des dépressions peut-être un petit peu moins sévères, les gens ont du mal à comprendre ou à ce qu'on leur dit, ben voilà, vous êtes bipolaire, etc. C'est pas comme quand on dit vous êtes hyper tendu. Ça se voit, on a 17-11 et puis ça se montre sur un petit, on voit sur le tensiomètre, c'est très bien. Ou si on dit, ben voilà, à partir de maintenant, je suis désolée, mais vous êtes diabétique parce que regardez, votre glycémie est à temps, la norme c'est temps, etc. Là, on est vraiment sur des critères, je ne veux pas dire subjectifs, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup d'échelles et de choses qui sont quand même bien codifiées. Et ça parle quand même beaucoup moins. On ne peut pas montrer une radio pour dire, regardez, vous êtes bipolaire. Donc ça, c'est quand même un petit peu, toujours un peu surprenant. Mais ce qui est vraiment important, c'est ces changements d'humeur notables par rapport à l'humeur habituelle. Et qui vont survenir en relation avec des stress négatifs, la plupart du temps, mais aussi positifs. Aussi étrange que ça puisse paraître, un stress positif peut engendrer une émotion extrêmement forte. Le stress positif, ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, ça peut être une promotion, ça peut être, enfin, toutes sortes, tout ce qui peut être positif peut engendrer une émotion telle, comme je vous ai dit, c'est un problème de régulation de l'humeur, donc l'émotion est tellement, tellement forte que ça peut engendrer un épisode soit maniaque, hypomaniaque ou dépressif. Ces fluctuations, elles peuvent venir spontanément également, ou alors en fonction des variations saisonnières. Le plus souvent, on a l'habitude de dire mars-octobre, une dépression saisonnière. Et entre les épisodes, a priori, au début du moins, pas de dysfonctionnement psychique majeur. Ce qui peut être compliqué, c'est que certaines personnes peuvent passer, dans 50% des cas, d'un épisode, par exemple, maniaque ou hypomaniaque, directement à un épisode dépressif, et ça dans 50% des cas. Donc il y a 50% des cas où ils reviennent ce qu'on appelle normotinique, c'est-à-dire dans cette frange en haut et en bas, et dans 50% d'autres, c'est directement vers le bas. D'accord ? Très rapidement, c'est très fréquent comme maladie. Nos chers livres de psychiatrie nous disent que ça touche à peu près 1-2% de la population générale. Certains chercheurs, en particulier Jules Angst, qui est un Suisse qui a fait une énorme étude, une très très belle étude, lui, qui a beaucoup élargi le spectre des troubles bipolaires et plus vers les 6-7%. Pour ma part, je dirais que nous sommes environ entre 3 et 5% de la population générale, ce qui est énorme, d'accord ? Qui débute souvent tôt dans la vie. Le plus souvent, on dit que ça débute vers 20-25 ans, d'accord ? Mais il y a des formes très jeunes, et des personnes âgées qui peuvent débuter un trouble bipolaire vraiment très tard. Qui est diagnostiqué très tardivement. Il faut en moyenne 8 ans pour diagnostiquer un trouble bipolaire, ce qui moi m'a toujours fait hurler. Et depuis 5 ans, eh ben, ça n'a toujours pas baissé, c'est toujours 8 ans. Il faut en moyenne 3-5 médecins avant de faire un diagnostic. Et malheureusement, dans 73% des cas, on fait un diagnostic erroné. Voilà. Ça me fait toujours hurler. Autant d'hommes que de femmes. Le risque suicidaire est très important parce que quand on considère les bipolaires de type 1, je vous rappelle, c'est les grands accès maniaques et dépressifs, et les bipolaires de type 2, en fonction des études, c'est entre 15 et 20%. J'ai pris le chiffre de 19% qui était assez parlant. La maladie bipolaire est malheureusement la maladie psychiatrique qui engendre le plus de suicides. D'accord ? C'est dramatique. Et 50% des patients bipolaires ont fait ou feront une tentative de suicide. 65% des patients bipolaires ont au moins une autre pathologie associée, au moins une autre, c'est ce qu'on appelle une comorbidité. Et dans 45%, c'est une addiction. Le plus fréquemment, c'est l'alcool, dans à peu près 40% des cas. Et les toxiques, que ce soit cocaïne... Cannabis. Oui, cannabis, cocaïne. Ils aiment bien les trucs qui font speeder, quand même. Dans quelques cas, on peut retrouver des troubles du comportement alimentaire, assez peu, mais certains troubles du comportement alimentaire sont en fait... ont une comorbidité avec les troubles bipolaires. Et la deuxième grande comorbidité sont les troubles anxieux, avec les troubles anxieux généralisés, les phobies sociales, les attaques de panique, les TOC, qui sont tous extrêmement invalidants. D'accord ? Donc 65% des bipolaires qui ont au moins une autre maladie associée, c'est beaucoup. C'est une maladie extrêmement invalidante, et c'est bon le timing ?
C'est très bien.
Il faut que je speed, putain. L'une des maladies les plus coûteuses au plan mondial, par leur coût direct et indirect, d'accord, que ce soit maladie en elle-même, que ce soit arrêt de travail, que ce soit les accidents de la route causés par une personne alcoolisée, d'accord, une des maladies les plus coûteuses. Et le patient souffre terriblement. Terriblement, ces fluctuations de l'humeur, parfois les patients se sont très très mal pendant des jours, des semaines, des mois, et puis ping, tout d'un coup ça va mieux. Et ça va mieux, même de manière florissante et grandiose, et c'est vraiment très difficile. Mais c'est aussi une souffrance énorme pour l'entourage. Ça, je crois que je voudrais vraiment insister là-dessus. Il y a un risque énorme de désinsertion familiale, sociale et professionnelle. C'est l'exemple d'une dame qui est secrétaire médicale comptable depuis 20 ans dans une boîte, et puis qui commence à faire un état hypomaniaque et maniaque, et donc elle s'est mise, s'est déshabillée comme ça. Après, elle est allée voir son patron, a posé sa démission et au revoir, et elle a divorcé. Donc en fait, elle a tout perdu, tout. Donc C'est très, très, très invalidant. Hein. C'est pas, j'ai l'air de rigoler comme ça, mais c'est dramatique. Risque judiciaire, médico-légal, c'est les patients aussi qui peuvent se sentir les... J'ai un patient qui me disait, je suis le roi du monde. Quand je suis maniaque, je suis le roi du monde. Donc, prends un faux pistolet de son gamin, va dans une banque. Bah, c'est drôle, quoi, pour lui. C'est bien, il est bien, et puis il sent que tout va bien se passer. Ben non, ça se passe mal, quoi, parce qu'il se retrouve en prison, et voilà. Taux très élevé de mortalité. Donc là, je vous ai mis un autre chiffre, parce que, comme je vous ai dit, c'est entre 15 et 20 en fonction des... Gros pourvoyeur aussi, malheureusement, la maladie bipolaire, de pathologie cardiovasculaire, puisque à cause du stress... Le stress qui est vraiment très invalidant et les conduites à risque. Et nous arrivons au traitement.
Elle baille.
Dominique, enfin. Alors, encore une fois.
Une question.
Ah oui, oui. J'en profite pour boire.
Oui, une question. Est-ce qu'un quelqu'un qui se suicide, est-ce qu'il potentiellement est bipolaire?
Non, non. D'abord, on ne va pas faire des diagnostics à l'arrache, comme ça. Mais quelqu'un... Alors, certaines personnes peuvent faire des tentatives de suicide, d'accord ?
Mais de ceux qui ont réussi.
Ah, pardon. Excusez-moi.
Quelqu'un qui s'est suicidé.
Quelqu'un qui s'est suicidé. C'est un petit peu difficile de faire un diagnostic rétrospectif comme ça. Ça peut être un faisceau d'arguments et d'éléments de tout ce qu'il peut y avoir avant qui pourrait éventuellement faire dire que oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Les traitements. Eh bien, en fait, c'est un peu compliqué de traiter les traitements parce que qu'est-ce qu'on va faire ? On va agir sur la phase aiguë, d'accord ? C'est-à-dire un épisode maniaque, hypomaniaque ou dépressif, d'accord ? Et puis, en même temps, il va falloir prévenir les rechutes. Donc, c'est un petit peu compliqué. Alors, on va agir à différents niveaux. Au niveau biologique, tiens, pourquoi j'ai marqué les deux
c'était. C'est juste.
Oui. Les traitements médicamenteux et l'électroconvulsivothérapie dont nous parlera Mme Lévy après. Gérer sa vie en fonction de la maladie, c'est très important. C'est l'information, l'éducation sur les troubles bipolaires. Gérer les séquelles, les problèmes individuels et familiaux, c'est toutes les thérapies. Et agir sur les éléments potentiellement aggravants, c'est l'hygiène de vie. D'accord ? Donc, vraiment, beaucoup d'axes de traitement. Et je vous propose de les voir succinctement. D'accord ? En ce qui concerne les traitements médicamenteux, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une maladie grave, chronique, et qu'il est important de prendre un traitement au long cours. Et ce traitement, c'est un traitement régulateur de l'humeur ou un thymorégulateur. D'accord ? Donc, le traitement préventif, c'est pour limiter en fait la survenue des épisodes vers le haut ou vers le bas. On ne va pas les arrêter. Hein. Je ne peux pas dire que ce n'est pas du 100%. Mais au moins, on va limiter et l'intensité s'ils surviennent et la fréquence, d'accord ? C'est vraiment très important. Et ça, c'est ce qu'on appelle le traitement au long cours. Et là, c'est le régulateur de l'humeur qui va vraiment être le traitement pivot. OK ? Et ce traitement pivot va pouvoir se faire seul, en monothérapie, ou alors en association. Ça, ça fait toujours peur aux patients. Ils se disent, mais si j'en prends trois, ça veut dire que je suis vraiment très malade. Non, pas forcément. Ça veut dire que vous, vous avez besoin d'en avoir deux ou trois. Les patients, pour faire le parallèle avec les patients qui ont une hypertension artérielle, il est rare maintenant d'avoir des gens qui prennent un antihypertenseur. Et en plus, avant de trouver le bon, il faut peut-être en essayer plusieurs. Et parfois, il en faut un, voire deux. Et il est courant maintenant de voir des patients qui ont trois antihypertenseurs. D'accord ? Parce qu'ils interagissent les uns avec les autres, ils vont potentialiser les autres. D'accord ? Donc, quand on a ce traitement pivot, régulateur de l'humeur, il se peut, malgré tout, qu'il y ait soit un échappement au traitement, soit X raisons, et qu'il survienne des épisodes hypomaniaques, maniaques ou dépressifs. Et là, on administre, nous, d'un point de vue médicamenteux, un traitement ponctuel. Ok. Et ce traitement ponctuel va se faire soit en ambulatoire ou lors d'une hospitalisation si nécessaire. Oui ?
Je chante, mais...
Non, non.
Pour vous, au long cours, c'est quoi, à vie ?
Ça, c'est toujours la grande question.
Ponctuel par rapport à ponctuel.
Ponctuel, c'est vraiment très délimité dans le temps. On est angoissé, on prend un traitement pour l'angoisse ponctuellement. On n'arrive pas à dormir, on va prendre un traitement ponctuellement pour rétablir le sommeil.
C'est... On dit que déjà, il y a un certain laps de temps avant que ça fasse de l'effet.
Oui, mais si on prend par exemple le trouble du sommeil. Quelqu'un, je suis très embêtante avec le sommeil. Hein. Là, je regarde les gens qui le connaissent un peu. C'est quelque chose qui est très important, le sommeil. Donc je dis toujours, dès qu'au bout de quelques jours, vous sentez que vous ne dormez pas bien, il est impératif de voir votre médecin et lui dire que vous ne dormez pas. Et s'il faut, ponctuellement, il vous administrera un traitement. Vous, pardon, c'est pas vous, mais... Il donnera un traitement pour dormir. Mais ça ne va pas être au long cours. On ne va pas laisser le traitement pour dormir pendant 3 ans. D'accord ? Le traitement de base, c'est le traitement régulateur de l'humeur. Et après, combien de temps ? Ça, c'est toujours la grande question. C'est toujours la grande question. Et c'est du cas par cas. Cas par cas, toujours. Ça dépend comment est survenue une trouble de l'humeur, si c'est la suite d'un traitement médicamenteux ou pas. Il y a tellement de facteurs, vous voyez ce que je veux dire ? Mais on ne prend pas un traitement régulateur de l'humeur pendant 6 mois et on l'arrête. De toute façon, je vais faire une petite parenthèse tout de suite, parce que je le redirai encore. Il ne faut jamais, jamais arrêter un traitement médicamenteux sans un avis médical. C'est vraiment très important. D'accord ? Parce qu'en fait, tout simplement, ça peut redonner des rechutes quelques jours, quelques semaines, quelques mois après. D'accord ? Non seulement ça, ça peut donner des troubles ioniques importants. Enfin, je veux dire, faut être prudent dans l'arrêt des traitements. Et jamais faire ça seul, comme ça. J'ai répondu un peu à votre question ou pas ? Donc, le traitement de base, c'est le traitement pivot, le traitement régulateur de l'humeur, le thymorégulateur. Et ponctuellement, on peut administrer des traitements. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'ai pas mis les effets secondaires, comme on avait dit, parce que je pense que vous les connaissez tous. Ce qu'on a eu en tout premier, et on a eu de la chance de les avoir quand même, malgré tout, c'était les neuroleptiques. Je vous en ai mis 2, la loperidol, la chlorpromazine, il y en a plein d'autres. Qui sont très efficaces sur les états maniaques, mais qui, et sur les angoisses importantes, mais qui, malheureusement, donnent des effets secondaires assez importants. Il y a quelqu'un qui me disait, c'est comme si en même temps, enfin, cette personne me décrivait qu'elle était en état maniaque, et à qui on avait donné de la loperidol. Elle me dit, c'est comme si en même temps on appuyait sur l'accélérateur à fond et sur le frein à fond. Donc c'était vraiment très difficile pour eux. Ou dans la tête, ça va très très vite, et puis en même temps, d'un point de vue moteur, ils sont très ralentis, ou au contraire, dans la tête, ils sont dans le potage. Donc c'est vraiment pas agréable. Est apparu dans les années 50 le lithium, qui est un excellent... il n'y a pas d'excellent, mieux, pas bien, etc. Mais bon, c'est le plus ancien, et c'est par rapport à celui-là que toutes les études pharmacologiques sont faites, hein, quand même. L'inconvénient du lithium, c'est un excellent traitement. L'inconvénient du lithium, c'est qu'il faut vraiment surveiller attentivement. Pardon ? Oui, il faut surveiller attentivement parce qu'il peut y avoir des effets secondaires, en particulier au niveau rénal. Voilà. Mais ça reste un excellent traitement. Excellent traitement au long cours et en même temps, si on a besoin de l'état maniaque, de rajouter ou d'en mettre. Dans les années 70, sont apparus les médicaments qu'on appelle les anticonvulsivants. Donc, qui à l'origine était destiné à traiter l'épilepsie et se sont rendus compte dans les années 70 effectivement qu'ils avaient également une vertu thymorégulateur, régulatrice de l'humeur. Voilà. Donc, il y a le valproate de sodium, le divalproate, la carbamazépine, et je vous ai mis entre parenthèses parce que c'est de plus en plus donné, la lamotrigine. Je pourrais vous en citer d'autres qui n'ont pas encore l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, mais on n'est pas non plus là pour faire des petites sauces dans tous les sens. D'accord ? Mais comme je sais que pas mal de gens commencent à avoir la lamotrigine, c'est pour ça que je l'ai noté là. Lamotrigine qui est très efficace aussi pour les dépressions bipolaires. Ok ? Et sont apparus il y a quelques années, combien de temps ? Une quinzaine d'années ? Oui ? Les antipsychotiques. c'est ce qu'on appelle, on ne peut pas les appeler de neuroleptiques, mais qui ont une action qui est un petit peu similaire à celle des neuroleptiques dits classiques, mais qui n'ont pas les effets secondaires, qui ont des effets secondaires vraiment moindres que le neuroleptique classique. C'est la aripiprazole, la risperidone, le lanzapine, par exemple, qui vont en avoir à la fois un effet régulateur de l'humeur au long cours, mais qui peuvent également agir soit sur l'angoisse, soit sur des éléments délirants. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur cette diapo qui est absolument indigeste ?
Il y en a toujours un, c'est tombé sur vous.
Oui.
Ce sont les molécules, là, on est bien d'accord.
Oui, c'est le nom des molécules. Ouais, ouais.
Sauf si je me suis trompée, mais je pense.
C'est les molécules, oui.
Hum ? Vous voulez les petits noms de jeunes filles, les noms ?
Non.
C'est le dépamide, dépacote, tégrétol, il y a le triléptal également, le lamictal, l'abilify, le risperdal, le zyprexa, l'aldol, et voilà. C'est bon ? J'ai répondu bien.
C'est bien, c'est bien.
Oui, c'est Madame Kate Jamison. Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien, madame.
Tante Jacques, le micro, tante.
Elle était contente. Cette psychiatre disait qu'elle était contente d'avoir cette maladie bipolaire parce que, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, elle pense que quand on est en état d'hyperactivité, septième ciel, etc., on a des activités qui aboutissent, qui ne sont pas.
Mais on ne peut pas faire une généralité et dire que c'est...
Oui, moi j'ai trouvé que votre description là était très 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 rapide et très excessive.
Ah bah putain, c'est mon côté bipolaire, je suis désolée.
Très, très excessive, parce qu'en plus on peut faire une dépression, être soigné pour la dépression, et le fait de prendre des antidépresseurs provoque l'hyperactivité.
Bah oui. Ah oui, non, mais vous savez, il faut que je raccourcisse mes généralités, sinon je vais me faire gronder par Monsieur Lavignotte.
Et puis moi,
sinon,
je pourrais.
Tout ça, c'est.
Il faudrait faire 4-5 heures, 3 jours de conférence.
Bien sûr. C'est pour ça que j'ai un petit peu insisté sur les patients qui sont unipolaires dépressifs, qui sont longtemps considérés. Oui, je vous ai vu. Qui sont longtemps considérés comme unipolaires dépressifs, à qui on donne des traitements antidépresseurs, et qui tout d'un coup, malheureusement, au lieu de rester dans la petite frange, si vous me permettez cette expression, en haut et en bas, malheureusement, font un état maniaque. Puisque les antidépresseurs, malheureusement, c'est pour ça qu'on dit que le traitement doit être ponctuel, en tout cas pour les antidépresseurs, malheureusement, ces traitements peuvent faire virer les patients, virer vers le haut. D'accord ? Un antidépresseur, moi je dis toujours, c'est fait pour redevenir normotimique, c'est-à-dire, normaux, c'est-à-dire entre la frange en haut et en bas, et en aucun cas pour faire monter vers le haut. C'était malheureusement quelqu'un que nous avons bien connu qui disait, on va le mettre... Avant, c'était un test diagnostique, pour voir si les patients étaient bipolaires ou pas. On administrait, il y a très longtemps, on administrait des antidépresseurs à haute dose, et si les patients viraient, faisaient un virage maniaque, on disait, bah oui, il est bipolaire.
On fait plus.
Effectivement. Mais je crois que c'était pas... Mais par contre,
vous êtes une
solution premier, madame et vous. Le problème... Ouais.
Une seule question encore, et puis on va enchaîner.
Non, parce qu'il y en a trois qui ont demandé. Ce qui est clair, c'est que les patients qui font une dépression... Quand ils sont les patients bipolaires qui font une dépression, ça m'embête vraiment de rentrer dans de la cuisine de traitement. Mais la première chose qu'on fait, c'est d'augmenter le régulateur de l'humeur. Et l'antidépresseur ne vient vraiment qu'en deuxième position. Justement à cause du risque de virage maniaque. D'accord ? Alors effectivement, certaines personnes qui sont maniaques font plein de très belles choses, mais des Kate Jamison, il n'y en a pas énormément quand même. On peut aussi citer des Van Gogh, parce que certaines personnes pensent qu'il était bipolaire, des Baudelaire également. Mais...
Beaucoup d'artistes.
Oui,
je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre.
Non, mais ça, je ne suis pas sûr que ça appelle une réponse très sérieuse, mais ça fait rien. C'est un peu le miroir de la réflexion précédente. Vous avez parlé, je découvre un peu ce sujet-là, moi.
qui se traduisent plutôt par de la dépression, pour faire court, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des maladies unipolaires en épisode maniaque constant, et qui là serait très sympathique, et moi je serais preneur?
Alors oui, ça existe, c'est très rare.
C'est très rare.
C'est très rare. C'est vraiment très rare. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Par contre, il existe des gens qui ont... Oh là, on fait vraiment la digression, je vais me faire engueuler là. Il existe des personnes qui, sans faire des états maniaques francs et massifs, ont un tempérament qu'on appelle hypertimique. Pardon de faire le parallèle, mais Bernard Tapie. Ils sont toujours...
Ça, c'est un tempérament, quoi. C'est pas pathologique.
Bah, excusez-moi, c'est le seul que j'ai en magasin tout de suite, là.
On peut parler du président, c'est peut-être...
C'est pas favori non plus, mais bon.
C'est l'ami du président,
hein? Nicolas aussi.
Ah oui,
Nicolas aussi, non? Allez, continue.
Allez, on continue. Les enfants. Pardon, excusez-moi.
Je la remette? Je veux la précédente. C'est quel bouton, ça? C'est lequel?
Ça?
Celle-là.
Donc, quelqu'un avait une question sur ça. On prend une nouvelle question et puis on enchaîne après. Parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche encore.
C'est juste oui ou non. Je voulais savoir si les médecins généralistes, justement par rapport au ponctuel et au long cours, étaient vraiment formés là-dessus.
Oh là là.
Bah écoutez, je fais ce que je peux, on fait tout ce qu'on peut.
Non,
hein.
Non, je parle des médecins généralistes.
Mais c'est ce que je vous dis, on fait ce qu'on peut pour les former. Mais,
c'est en collaboration avec eux.
Non, parce que justement,
on travaille avec eux.
Mais c'est le risque. Attendez, pour faire encore une fois une petite digression avec ça, c'est que les gens, les patients, ils vont voir leur médecin quand ça va pas. Hein. Et on est tous pareils. On va jamais voir son médecin en disant salut doc, tu sais, je vais hyper bien. Comment tu vas? Ça te dit qu'on boive un café ensemble parce que j'en étais hypomaniaque.
Est-ce que c'est pas la facilité aussi?
Mais non, mais attendez, les patients appellent pas leur médecin pour dire ça. On les voit qu'en état dépressif. Et si
on les voit pas.
Les gens ne rapportent pas qu'ils ont fait un état hypomaniaque.
Jamais.
Vous voyez ce que je veux dire?
Il faut les questionner.
Un médecin de famille, c'est deux familles, donc il est censé poser les bonnes questions.
Non. Non, mais on peut pas. Ah, vas-y.
C'est un peu compliqué.
Il faudrait faire une table ronde avec des généralistes, mais bon.
Anxiolytique, c'est pour traiter l'angoisse quand ça ne va pas. Tous ces traitements doivent être ponctuels. Hein, on ne laisse pas un antidépresseur pendant 4 ans, sauf cas exceptionnel, bien sûr. D'accord ? La psychoéducation, je pense que vous l'avez compris, c'est une facette qui est extrêmement importante et qui met très cher et qui est très cher aussi aux patients. Ça fait partie intégrante de maintenant des normes. Pas tous ces trucs-là, mais bon, là, de temps en temps, je trouve que c'est très bien. Dans les
recommandations.
Les guidelines. Les recommandations des traitements des troubles de l'humeur. D'accord ? La psychoéducation fait partie intégrante du traitement. Et en fait, le but, c'est de devenir un expert de sa maladie. On explique aux gens en long, en large et en travers, quand ils sont diabétiques, ben voilà, si vous avez un petit problème, si vous allez faire des courses, il faudra augmenter, diminuer la dose, il faudra manger un petit peu plus de pain, un peu de pommes, un peu de machin. Ça, on fait de l'éducation et c'est très très bien, très bien vu et très bien. Mais on a mis très 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 longtemps avant de faire de l'éducation, déjà dire aux patients ce qu'ils avaient comme maladie, ça m'a toujours beaucoup étonnée, dire qu'il fallait prendre un traitement au long cours et pourquoi. Voilà, donc je suis un peu...
J'ai juste une petite remarque sur le transparent, là. Oui, mais je vais être très, très bref.
Attention, Jacques.
Dans le point 2, c'est doivent devenir de véritables experts de leur maladie.
Oui.
C'est pas du trouble bipolaire, parce qu'on a des patients et des proches qui en savent maladie. Plus que les médecins maintenant.
Ah, mais bien sûr, mais heureusement.
Avec Internet et la psychoéducation, on en arrive à ce renversement-là.
De leur propre
Alors,
maladie.
Le patient est le meilleur expert de sa Tout propre maladie. Mais ça ne vaut que
la
pour.
La dernière diapo.
Ah, désolé, mais c'est.
J'ai piqué sa dernière diapo.
Vous trichez.
Excusez-moi.
Donc, c'est l'information. Et l'éducation, ça fait un peu bizarre, éducation, mais c'est vraiment informer. Moi, j'ai toujours eu cette idée de me dire, mais attendez, si on filait une petite pilule blanche et une rouge en me disant, vous devez prendre ça à vie.
Sans expliquer pourquoi.
Excusez-moi, sans expliquer pourquoi, ni comment, ni m'expliquer ce qui pouvait se passer, etc. Excusez-moi, je suis peut-être un peu parano, mais en toute sincérité, ça ne durera pas très longtemps, ce traitement, hein, ce qui me concerne. Donc, je trouve que c'est vraiment important d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe pour qu'effectivement les patients deviennent de véritables experts de leur propre maladie. Donc c'est permettre une meilleure connaissance du trouble, faciliter l'acceptation et éviter le déni. C'est toujours le, malheureusement quand ça va très bien, oui je sais je me dépêche, maintenir une alliance thérapeutique et améliorer l'observance. C'est clair que si on comprend pourquoi on prend un traitement, on le prendra, d'accord ? Reconnaître les signes précurseurs, il y a plein de gens qui disent « moi je sens quand ça va venir, je sens quand ça monte ». Ça peut être des trucs tout bêtes, une petite irritabilité un peu plus exacerbée qui dure un peu plus longtemps, des gens qui disent « moi quand je ne dors pas deux jours de suite, je sais,
une couleur.
C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ». J'ai un patient, ça a l'air peut-être idiot, mais dès qu'il commençait à aller mal, dans un sens plutôt vers un état maniaque, il mettait une écharpe rouge.
Rouge, les couleurs, beaucoup de trucs par rapport aux couleurs. Ouais.
Et donc lui, c'était un signe, comme ça, et donc la famille savait, comme la famille était informée, pouvait lui dire éventuellement, fais quelque chose. Limiter les conséquences au niveau personnel, familial et socio-professionnel. Il est évident que quand la famille sait ce qui se passe, peut vraiment beaucoup aider le patient. Très rapidement, les psychothérapies sont très importantes, à mon sens, que ce soit une psychothérapie de soutien, les thérapies comportementales et cognitives, les thérapies interpersonnelles, voilà. C'est en fait repérer et modifier des systèmes de pensée qui vont avoir un impact négatif sur le patient et donc sur la maladie. D'accord ? Mauvaise estime de soi, hypersensibilité. Donc en fait, c'est aider la personne, soit lors d'un épisode aigu, soit entre les épisodes, à aller un petit peu de l'avant et, enfin, pardonnez-moi cette expression, peut-être un petit peu à, effectivement à modifier ses systèmes de pensée pour peut-être positiver. Pardon ? Vous avez tout noté, je vous donne un petit...
Le DTCC organisé sur Poitiers ?
Bien sûr.
Oui.
Oui, oui, tout à fait.
C4.
Au C4, oui. Psychanalyse ou psychothérapie d'inspiration analytique, qui sont elles basées plutôt sur l'exploration, les interprétations de l'inconscient. Bon, là c'est beaucoup plus long, on est sur des thérapies beaucoup plus longues, alors que les précédentes, ça peut être vraiment serré dans le temps, hein, quelques séances, voilà. Là on est vraiment sur du long terme. Psychothérapie familiale pour vraiment retrouver un certain équilibre au sein de la famille, parce qu'il faut voir que tout l'équilibre est complètement explosé dans ces cas-là. Hein. C'est extrêmement bouleversant. Même si, comme vous le disiez, madame, ça peut être très bien en état maniaque. D'autres types de hypnose, relaxation, sophro, gestalt, un petit peu pour la gestion de tout ce qui est gestion du stress. C'est pas une liste exhaustive, je suis vraiment désolée d'aller aussi vite. Et j'ai terminé. L'hygiène de vie, prendre son traitement médicamenteux régulièrement. La régularité, je crois que le maître mot de cette maladie, après, c'est régularité. Régularité dans la prise du traitement, régularité dans la vie. Alors on me dit, ah, mais oui, mais vous comprenez, je ne peux pouvoir rien faire. Bien sûr que si, il ne s'agit pas de se coucher comme les poules, de vivre. Non, mais il faut pouvoir compenser. Je dis toujours rythme de sommeil régulier, c'est-à-dire que si on sort le soir, avoir la possibilité de récupérer un moment ou un autre, le lendemain. D'accord ? Je crois que le sommeil est très, très, très important. Sortir en boîte,
très
oui, ok, pas de problème, mais le lendemain, on récupère. Et ce n'est pas sortir en boîte 4 nuits de suite. Parce qu'il y a un moment où le manque de sommeil, et ça, c'est clairement prouvé, risque d'engendrer, la plupart du temps, un état hypomaniaque ou maniaque, plus que dépressif. D'accord ? Vous parliez des médicaments tout à l'heure. On n'a pas évoqué les autres traitements parce qu'il fallait aller quand même assez vite. J'ai encore 5 minutes. Prévenir toujours les médecins traitants ou les médecins que l'on voit pour une maladie ou une autre, que l'on prend, que l'on a cette maladie. D'accord ? Je pense par exemple, quelquefois bien sûr que c'est indispensable de prendre par exemple des médicaments comme des corticoïdes ou certains antibiotiques qui peuvent malheureusement engendrer un épisode, la plupart du temps, maniaque. C'est vraiment très important de prévenir qu'on prend ce traitement-là, parce qu'en plus il peut y avoir des interactions médicamenteuses. On prend un traitement régulateur de l'humeur. Donc, il peut y avoir des interactions médicamenteuses. Et en plus, ça peut engendrer un épisode en haut ou en bas. Oui ? Non, les corticoïdes.
Les corticoïdes, pas les AINS.
Les corticoïdes, pas les AINS.
Cortisone, quoi.
Oui, Cortensil, Soluprède, choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre, mais il faut prévenir.
Les médecins sont quoi ?
Voilà. Éviter la consommation d'alcool, de drogue, limiter la consommation de café et de tabac, maintenir des activités sociales, professionnelles, régulières. C'est vraiment important, hein, tout ça, la régularité. Éviter l'inactivité excessive. Ça a l'air de rien, mais c'est super agréable de rien faire. Un jour, deux jours, dix jours, mais le problème, c'est que quand on a une hyper susceptibilité à des problèmes émotionnels, si on ne fait rien, on peut se laisser aller de plus en plus. Ce n'est pas, c'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, mais à ne rien faire, on se laisse aller dans quelque chose et on peut malheureusement développer un épisode, alors là, pour le coup, plutôt dépressif. Éviter le surmenage, on dit toujours c'est vachement facile, au boulot, organiser son emploi du temps, ben, oui, essayer de faire en sorte de ne pas se retrouver là, au dernier moment. La procrastination, j'ai toujours adoré ce mot, c'est-à-dire faire les choses à la dernière minute, d'accord ? Essayer de planifier. On ne fait pas le même jour les courses, la vidange chez Leclerc, l'école, la danse pour les gamins, la belote le soir, enfin, s'organiser, il faut faire des choses. Mais c'est arrêter de rire. C'est aussi souvent une question qu'on me pose en cas de. Qu'est-ce qui se passe quand on fait les voyages ? Attention, alors c'est pas dire qu'il ne faut pas voyager, bien au contraire, c'est important. Mais attention au décalage horaire, en particulier est-ouest, hein, c'est-à-dire vers les Antilles, vers les États-Unis, qui la plupart du temps. Enfin, qui peuvent, pardon, entraîner un état hypomaniaque ou maniaque. D'accord ? Donc, ce qui est important de faire dans ces cas-là, c'est vraiment se caler le plus rapidement possible sur le rythme de vie
du pays, ouais.
De l'endroit où on se trouve, hein, New York ou Pointe-à-Pitre, je sais pas. Se caler sur l'horaire local et surtout pas oublier son traitement en France. Ça a l'air bête, mais voilà. Se connaître, et apprendre à gérer son stress et apprendre à le contrôler. Donc, faire ce peu. Les clés du traitement, accepter la maladie et ses conséquences. Encore une fois, c'est extrêmement compliqué et difficile, surtout avec les traitements qu'on a, où la plupart du temps, il n'y a pas de modification, entre guillemets, de la personnalité. Donc les gens disent, moi je prends un traitement, mais ça ne me fait rien votre truc, je vais très bien. D'accord ? Donc j'ai envie d'arrêter. Non. Reconnaître le besoin de soins, accepter un traitement à la fois par la psychothérapie et les régulateurs de l'humeur. D'accord ? C'est exactement la même chose que les gens qui prennent un traitement pour l'hypertension artérielle. J'ai entendu des amis me dire « Je vais arrêter mon traitement pour l'hypertension artérielle parce que j'ai 12-8. » Ben non, si tu as 12-8, ça veut dire c'est bien. D'accord ? Ça veut dire que le traitement est efficace. Donc, il ne faut surtout pas l'arrêter. Ils disent « Oui, mais j'ai plus d'hypertension, donc c'est bon. Ben, continue le traitement. » Là, c'est pareil. On va limiter avec le traitement régulateur de l'humeur, on va limiter l'intensité et la fréquence des accès. D'accord. On ne va pas parler de la théorie du calming. Il est très important de soigner les accès maniaques. Mais c'est pas grave, j'ai encore une minute. Non, c'est la théorie du calming, elle est dans le. Vous la trouvez partout. C'est en fait de dire qu'au départ, les accès sont engendrés par des stress forts et que petit à petit, les stress sont de moins en moins forts, voire. Les épisodes se déclenchent spontanément
de même.
Hein? Au départ, il faut vraiment des stress très importants, positifs ou négatifs, et petit à petit, les stress surviennent tout seuls. D'accord ? Les dépressions et accès maniaques ou hypomaniaques non soignés, alors ça, c'est très important à mon sens, cela toxique au niveau du cerveau, avec des troubles de la mémoire, des atteintes des fonctions intellectuelles. Il y a même des études qui ont été faites, soit en IRM, soit en PET scan, assez importantes, qui ont montré quand même des diminutions au niveau cérébral, ainsi que des études post-mortem qui ont montré quand même des sérieux problèmes au niveau cérébral. Il est normal d'avoir des doutes sur le traitement, qui peut être vécu, comme je disais tout à l'heure, comme inefficace, ou alors donner des effets indésirables, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Tous les traitements, quels qu'ils soient, ont des effets secondaires. Il faut être clair, d'accord ? Et on peut... Vous pouvez tous avoir envie de l'arrêter et je crois qu'il faut vraiment en discuter tant que faire ce peut en toute confiance avec le médecin et ne jamais, jamais arrêter un traitement brutalement sans avis médical. Ça, c'est vraiment très, très, très important, quel qu'il soit, hein, de toute façon. Et voilà, le patient qui devient expert de sa maladie, hein, le patient qui est au centre avec le traitement pharmacologique, la psychothérapie, l'association de patients, les groupes de psychoéducation et travailler avec les familles. Quand tout ça ne marche pas très bien, on peut avoir recours
au docteur Lévy.
Ah oui.
T'as vu ça un peu ?
On va applaudir, hein, docteur.
Désolée d'avoir été un peu courte sur certaines choses, mais bon. C'est où son truc, hein ?
Alors donc, pour faire suite à l'exposé d'Hélène Rose, je vais aborder ce soir avec vous une thérapeutique qui est peu connue, ou quand elle est connue, elle est mal connue, et je suis particulièrement contente d'avoir été invitée par Argos, par Jacques Lavignotte et par Hélène Rose à faire cette conférence au grand public, hein, puisque... Je suis psychiatre aussi à Henri Laborie comme Hélène Rose, mais je m'occupe en particulier d'une unité sur les soins par électrocognitivothérapie. On va dire ECT, ça sera plus facile. Alors un peu d'histoire tout d'abord. Les médicaments, l'électricité, ça. On va voir un petit peu quel lien il va y avoir. Alors, il faut savoir quand même qu'avant les années 30, la psychiatrie, c'était un peu le désert, hein, sur le plan des médicaments. Il y avait des thérapies qu'on appelait des techniques de choc, qui étaient des techniques qui étaient quand même assez dangereuses pour les patients. Mais bon, quand il n'y a aucun traitement et que les gens vont extrêmement mal, les médecins faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient comme traitement. Hein. Et c'est ainsi qu'en 1938 est né ce qu'on appelait l'électrochoc en premier, l'électrochoc en italien, puisque c'est un italien qui a découvert cette thérapeutique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça a été pour les malades une libération, un espoir, puisque ça marchait bien. Alors, on va voir un tout petit peu d'histoire. Donc, il n'y avait pas de médicaments. Les thérapeutiques de choc qui aboutissaient au fait de mettre les gens dans le coma par des injections d'insuline, par exemple, étaient quand même assez risquées. Et c'est dans ce climat-là qu'un Italien, Cerletti, a fait des recherches, puisqu'il pensait que l'épilepsie et la schizophrénie, qui étaient des maladies qui étaient à l'époque très, très répandues, mais qu'on arrivait très mal à soigner, donc il y avait beaucoup de chercheurs qui travaillaient dans ce domaine-là. Alors lui pensait qu'il y avait un antagonisme entre les deux, c'est-à-dire qu'un patient schizophrène, et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait tout un tas de patients qu'on disait schizophrènes, qui en réalité, pour certains, étaient des malades bipolaires. Ces personnes-là, si on leur provoquait des convulsions, eh ben, la théorie de ce médecin, c'est qu'ils allaient donc guérir. Voilà, donc il y avait un antagonisme entre ces deux maladies, enfin, du moins dans l'esprit des chercheurs. Et c'est pour ça qu'on cherchait à faire donc des crises d'épilepsie de courte durée chez les patients. Et c'est ainsi qu'a été découvert... D'abord, des études ont été faites sur des animaux, bien sûr. Et à un moment, donc, l'électricité a été utilisée avec succès chez les animaux. C'est-à-dire que les animaux, bien sûr, se réveillaient. Donc ils étaient un petit peu shootés, ils convulsaient, ils se réveillaient. Enfin, l'histoire ne dit pas s'ils étaient dépressifs ou non. Enfin, toujours est-il qu'ils ne mouraient pas, ils n'étaient pas malades, enfin, ils n'avaient pas de problème. Et c'est vrai qu'on était dans les années 30, donc il n'y avait pas des années d'études expérimentales avant de passer de l'animal à l'homme. Et c'est ainsi que des essais ont été faits dans des cliniques à Rome, mais bon, un certain nombre de patients, et en particulier le premier patient, qui était un homme qui avait été découvert errant dans les rues de Rome, complètement perdu, visiblement en état dépressif. Ce monsieur-là donc, était le patient numéro 1, et s'est rétabli tout à fait bien, a pu retrouver sa famille à Milan, et Cerletti l'a suivi pendant toute sa vie. Il le faisait venir régulièrement, tous les ans, pour le voir. Alors, assez rapidement, dans la psychiatrie, ce traitement non seulement était efficace, mais a été essayé donc dans le monde entier. Ça a été une révolution. Et le succès dépassa même son concepteur, parce que Cerletti n'était pas un homme très, très âpre au gain, donc il n'a pas fait breveter sa machine, ce qui fait qu'elle a été brevetée par un autre, vendue dans des tas de pays, et lui-même a gardé l'honneur d'avoir découvert cette technique, mais pas tellement d'argent qui allait avec. Et ça, il s'en fichait un peu, mais enfin, quand même, il faut le dire. Alors, aïe, ça y est, voilà, ça, c'est ce qu'on me dit quand on parle des électrochocs. Jack Nicholson, vol au-dessus d'un nid de coucou, Milos Forman, voilà. Alors là, électrochoc, voilà, électrochoc, tout de suite, vol au-dessus d'un nid de coucou, je pense que 99% des personnes ici présentes auraient répondu ça. Bon. Alors, c'est vrai hein, que au début, pendant les premières années du traitement, il n'y avait pas d'anesthésie. Parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie dans beaucoup de choses, hein, mais enfin en particulier dans ce domaine-là. Et bien évidemment, les patients et les soignants qui étaient présents et qui assistaient, en particulier les infirmiers, hein, à ces traitements-là, nous le disent, hein, puisque jusque dans les années quand même 70, c'était à peu près sans anesthésie, il y avait vraiment des espèces de soubresauts énormes, hein, et c'était très, très choquant, même... pour les gens qui soignaient. Hein. Et donc, c'est vrai que ça, c'était avant. Hein. Donc, maintenant, depuis quand même plus de 38 ans, bientôt 40 ans, ce n'est plus ça du tout. Hein. Mais ce traitement était beaucoup comparé pratiquement, on va dire, à la chaise électrique. Alors, l'électricité, ça fait peur. Ah, mets pas tes doigts dans la prise, tu vas t'électrocuter, ne fais pas ci, etc. Bon, voilà. La sismothérapie, c'était le nom qui a été utilisé après... parce que bon, il y avait des secousses, donc la personne tremblait. Hein. Alors tout ça, c'est du passé. Maintenant, on parle d'électroconvulsivothérapie. J'aime bien le mot thérapie, le mot électrique et le mot convulsion. Donc ça résume bien ce que c'est. Et c'est surtout une thérapie. C'est pas une torture. C'est pas des techniques qui sont utilisées à tort et à travers. Enfin, je parle de ce qui se passe en France et dans tous les pays occidentaux. Hein. Mais encore aujourd'hui, l'électricité fait peur. Hein. Ça fait très peur. Mais c'est bien pour ça que je suis là, pour vous en parler et répondre à vos questions. Alors, petit à petit, hein, la technique va s'améliorer. Hein. Les anesthésistes nous ont beaucoup aidés, et là, je veux insister sur ce point-là. Hein, ils ont vraiment collaboré avec nous pour que cette technique se fasse en toute anesthésie, donc sans aucune douleur, sans aucun risque. Mais il a fallu, en effet, attendre à peu près les années 70, hein, pour que le patient n'ait plus aucune anxiété, n'ait plus de complications au niveau des muscles qui pouvaient être provoqués par la force de la convulsion grâce à la curarisation. Donc le traitement s'administre, comme je vais vous l'expliquer, de manière réglementée par l'anesthésie. Alors, on s'est rendu compte finalement que ce n'était pas tellement la schizophrénie qui répondait bien à ce traitement, mais plutôt la dépression, hein, la dépression grave, hein, et je vous rappelle que les médicaments de la dépression, et le docteur Rose l'a rappelé pour les régulateurs d'humeur également, ne sont pas apparus avant les années 50. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient en état de mélancolie. La mélancolie, c'est l'état dépressif caractérisé majeur. Hein, c'est des gens qui ont tous les symptômes que le docteur Rose a décrits dans la dépression, mais puissance 10, hein, c'est-à-dire ils ne bougent plus, ils ne mangent plus, ils ne font plus rien, ils ne parlent plus. Eux-mêmes, d'ailleurs, finissent par délirer en disant qu'ils sont déjà morts. Donc à partir de là, ils ne s'alimentent plus, ils disent qu'ils n'ont plus de cœur, qu'ils n'ont plus d'intestin, qu'ils n'ont plus rien. Et si on ne fait rien, ces personnes-là décèdent. Alors, donc dans les années 54, les médicaments, alors comme dans toutes les disciplines, hein, aux confins de la philosophie, de la sociologie et de la médecine, la psychiatrie a eu dans les années 68, hein, sa période d'antipsychiatrie, hein, où là, il y a eu également, bon, je dirais, les ECT ont été critiqués parce qu'il y a eu des abus. Hein, il faut dire qu'il y a eu des abus, hein, c'est-à-dire que, en particulier dans certaines institutions privées, hein, bon, mais également dans les hôpitaux, on faisait un petit peu ça à tour de bras, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de réflexion clinique et de diagnostic précis pour faire ce traitement-là. Et bon, ça a été, je dirais, un gros problème. Hein, et à juste titre, hein, certains médecins refusaient totalement de pratiquer ces traitements-là. Et, peut-être dans un état, quelque chose d'extrême. Hein, c'était même je dirais, trop excessif. Et donc, il y avait un grand recul, hein, mais qui était peut-être sain, d'ailleurs, et nécessaire pour que, ensuite, ce traitement puisse revivre et renaître de manière médicale et beaucoup plus scientifique. Alors, aujourd'hui, alors on va en venir aux années... Voilà, 21e siècle, comment ça se passe? Alors, d'abord, il faut vous dire que c'est réglementé de manière très sévère. En psychiatrie, c'est le traitement le plus réglementé. Hein, et donc, il y a des décrets, hein, donc un de 94, un de 96, qui réglementent exactement quels sont les établissements où ça peut se passer, comment ça peut se passer. Il est indispensable d'avoir un consentement du patient éclairé et une information détaillée du traitement du patient, de son entourage, parce que le patient, quand il est dans l'état dont je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire complètement mélancolique, hein, le trouble le bipolaire peut avoir des états mélancoliques, il ne peut rien dire, il ne dit rien, il est pratiquement dans un état, si je vous voulez, de mort clinique, hein, c'est-à-dire qu'il est vraiment inexistant, et on ne peut pas lui demander de signer des papiers ou quoi que ce soit, donc la famille, les proches, hein, sont toujours reçus, informés, rassurés. On prend le temps qu'il faut. Bon, quand la personne va très très mal, on leur demande quand même de réfléchir assez rapidement. Hein. Mais ce n'est absolument pas un traitement qu'on peut donner sans un consentement ou de la personne ou de sa famille. Hein. Moi, j'ai eu des personnes qui auraient dû avoir ce traitement et qui ne l'ont pas eu, puisque la personne et la famille l'ont refusé. Alors, il y a toute une consultation pré-anesthésique, hein, qui est faite par un anesthésie. À Poitiers, ça se passe au CHU. Hein, il y a un anesthésiste du service de réanimation chirurgicale, hein, qui travaille avec nous depuis des années, enfin plusieurs anesthésistes. Et on fait des tas d'examens, hein, qui va du scanner cérébral jusqu'à l'électrocardiogramme, électroencéphalogramme, des examens sanguins. Enfin bon, tout est fait comme pour une personne qui doit avoir une anesthésie, plus éviter, hein, bien sûr, de passer à côté d'un problème cérébral, par exemple, hein, ou épileptique. Donc, aucun traitement n'est fait chez une personne qui n'a pas eu tous ses examens. Alors, cette procédure est à faible risque. Ça aussi, je vais insister là-dessus, puisqu'il y a quand même une mortalité extrêmement faible. Hein, on va dire, pour résumer, on aboutira à un décès tous les 125 ans, ce qui est plus faible que la mortalité en anesthésie. Hein. La morbidité, c'est-à-dire les accidents qui peuvent se produire, hein, sont également assez faibles, puisqu'on aboutit à un accident pour 1400 séances. Hein, donc, bon, si on prend une unité qui traite 80 patients par an. Alors, un accident, alors, ça, pareil, je ne vais pas tout détailler comme Mme Rose n'a pas pu le faire. Les accidents les plus, je dirais, les plus graves, donc qui sont, comme vous le voyez, extrêmement rares, hein, ce sont par exemple des personnes qui vont faire une arythmie. Hein, qui est jugulé, bien sûr, par l'anesthésique, ou alors une poussée de tension. Enfin, c'est surtout dans le domaine cardiovasculaire. Hein. Et les patients, si on a eu un risque avant, le cardiologue sera consulté également. Donc, on a beaucoup, il faut le dire, de personnes âgées. Hein. C'est le traitement de prédilection de la dépression grave de la personne âgée, puisque, une fois tous ces examens faits, il y a moins d'effets secondaires avec les ECT qu'avec les médicaments, parce que les personnes âgées ont déjà beaucoup de médicaments. Hein. On leur rajoute encore les médicaments pour la dépression, les médicaments peut-être pour les troubles de l'humeur. Donc finalement, tous les organes vitaux, en particulier les reins et le cœur, sont quand même pas mal mis à mal, le foie aussi. Et si on fait 5 ou 6 séances de ECT et qui guérissent, c'est quand même important, hein, puisque c'est des gens qu'autrement, on aurait parfois pu ne pas sauver. Alors, dans le monde, hein, donc Sakai hein, est un des grands spécialistes américains des ECT. Actuellement, dans le monde, chaque année, il y a 2 millions de personnes qui reçoivent ce traitement. Donc, c'est quand même pas un traitement obsolète ni archaïque. Hein. C'est un traitement qui marche, mais dans des cas très précis. Guérison de l'état mélancolique, pas guérison du trouble bipolaire. Mais si la personne fait un état mélancolique, elle va guérir de son état mélancolique. Et ensuite, et ça on va le voir, il faudra bien sûr continuer à avoir un traitement au long cours, comme l'avait expliqué le docteur Rose. Alors, une grande question qui est fondamentale, hein, et qui est sûrement très peu abordée, c'est comment ça marche, hein, parce que ça paraît un petit peu mystérieux, hein, de dire, voilà, on met de l'électricité sur une personne au niveau cérébral, elle a une crise convulsive, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même bizarre. Est-ce que c'est pas quand même quelque chose qui est complètement empirique et absolument pas étudié? Non, ben, non, c'est étudié. Hein. Aujourd'hui, hein, mais ça, on ne le savait pas au début, hein, on sait que ce qui est important, c'est, comme le docteur Rose le disait, c'est la biologie, hein, la biologie du cerveau. Hein. Le fait d'avoir une crise convulsive qui est toujours de très courte durée, puisqu'elle fait au maximum 25 à 30 secondes, donc très très courte, la crise, elle s'arrête d'elle-même. Hein. On ne sait pas pourquoi. Et c'est le fait qu'elle s'arrête qui relargue des neuromédiateurs dans le cerveau, qui a un effet identique à celui des médicaments en général, mais à une puissance beaucoup plus importante, parce qu'on stimule le cerveau dans une zone très précise. Voilà, donc c'est pas mystérieux, hein, c'est vraiment une action biologique. Alors, comment ça se passe à Poitiers? On va en venir aux choses très pratiques, puisqu'on est à Poitiers, hein, et on peut être malade à Poitiers, on peut avoir besoin à Poitiers d'être soigné pour ce genre de problème. Alors, premièrement, il faut être hospitalisé, puisque c'est un traitement qui nécessite d'être hospitalisé. Hein. Et quand vous êtes en général en état mélancolique, grave, ou également en état maniaque, qui ne marche pas avec les médicaments, on peut être amené à vous proposer ce traitement-là. Alors, le psychiatre qui vous suit indique ce genre de traitement, ou demande un avis, par exemple, à moi ou à d'autres collègues de l'hôpital qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et à ce moment-là, on va informer le patient, on va informer la famille. Donc tout ça, ça prend un certain temps. Hein, on ne fait pas ça en quelques jours. Hein. On a le consentement signé de l'un ou de l'autre, si possible des deux. Consentement signé également par le médecin qui s'engage. On fait tous les examens et on consulte un anesthésiste dans le service de réanimation chirurgicale. Plus précisément, dans la salle de réveil. La salle de réveil, c'est là où les personnes reviennent après des opérations chirurgicales. Alors, le traitement. Alors là, vous avez un patient hein, qui reçoit de l'oxygène, qui est branché à la machine qui est sur la machine qui est la machine donc à sismothérapie et qui est bien également est complètement branché pour le cœur, pour l'oxygène, pour la tension. Tout est surveillé exactement comme quand vous êtes surveillé après une opération. Alors, on a 2 à 3 séances par semaine. Alors, c'est un traitement qui nécessite quand même... c'est pas avec une séance que vous allez vous rétablir. Hein. Personne ne va se rétablir avec une séance comme personne ne se rétablit en prenant un comprimé de médicaments. Hein. Alors, 2 à 3 séances par semaine. Non, c'est pas par semaine, hein, c'est 15 séances. Là, c'est... J'ai pris cette diapo sur Internet et je n'ai pas tout bien relu. Donc, c'est deux séances par semaine. Hein. Et c'est 15 à 20 séances en tout, hein, dans la cure. On parle d'une cure. Hein. Donc, vous oubliez ça. Hein, il y a deux séances par semaine. Hein. Par exemple, on va dire mardi et jeudi. On arrête quand le patient va bien. Hein, et c'est entre 15 et 20 séances en tout. Hein. Donc la personne, vous calculez, doit rester quand même quelques semaines à l'hôpital, avec bien sûr, si elle va mieux, des permissions, enfin voilà, des choses. Alors, là pareil, comme le docteur Rose expliquait, que chaque cas est individuel. On ne peut pas dire qu'il y a un traitement du trouble bipolaire, chaque personne est différente et chaque personne a son propre traitement sur mesure. C'est exactement pareil pour ce traitement-là. Les appareils délivrent une énergie électrique au cas par cas. Hein, il y a tel patient qui aura besoin de tant de millicoulons, l'autre le double. Bon. Donc ça, c'est très individuel. On commence toujours très, très bas hein, et on augmente jusqu'à ce que la personne fasse une convulsion de 20 secondes parce que si elle n'en fait pas, c'est comme si on ne lui donnait aucun traitement et on n'est pas là pour ne pas soigner les gens. Il faut savoir, pour faire une comparaison, Madame Rose comparait avec l'hypertension ou le diabète, les chocs cardiaques, hein, les personnes qui ont des problèmes de tachycardie, de fibrillation ventriculaire, d'urgence, hop, on va les déchoquer. Hein, on va utiliser un appareil de choc cardiaque qui, lui, délivre, qui se fait bien sûr sans aucune anesthésie, parce qu'il faut agir dans les minutes qui suivent le malaise. Hein, voilà, et sans consentement non plus, parce qu'autrement, si on attend le consentement de la personne pour lui faire le choc cardiaque, elle est déjà morte. Donc là, on administre une quantité d'électricité, mais qui est au moins 100 fois supérieure. Hein. Bon, qu'on administre au niveau du thorax, hein, alors que nous, c'est au niveau des tempes, mais c'est des quantités qui sont infimes. Hein, et nous, on travaille avec des anesthésistes qui travaillent aussi en cardio. Ils disent, oh, vous administrez que ça, mais c'est rien, nous, c'est beaucoup plus et tout. Mais nous, on n'a pas besoin d'aller très, très haut quand même. Hein. Le cerveau, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas pareil. Alors, comment ? Voilà. Donc, on est hospitalisé. On a deux séances par semaine qui se passent le matin vers 8h, 8h30. Donc, vous êtes à jeun depuis minuit, hein, le truc classique quand on a une anesthésie. Alors, ce qui n'est pas toujours évident dans certains cas de patients, en particulier les gens très agités ou très maniaques, qui, comme vous l'a expliqué Madame Rose, hein, bon, bah, sont toujours en train de bouger, ne dorment pas, boivent, etc. Donc là, il faut bien les surveiller. Vous êtes accompagné du service d'Henri Laborie jusqu'au CHU avec un infirmier du service. On vous met sous oxygène. Hein, on surveille toutes vos constantes avec les appareillages de la salle de réveil. On vous anesthésie. Donc l'anesthésiste est toujours présent, hein, bien sûr, du début jusqu'à la fin. Il vous dit au revoir, à tout à l'heure, je vais vous mettre un produit qui va vous chauffer dans la veine. Bon, tous les gens qui ont été opérés ont entendu cette phrase-là. Et puis après, vous avez également un curare. Hein, donc le curare, c'est pour avoir des muscles complètement relâchés, pas risquer que vous ayez des contractures ou des problèmes musculaires. Ensuite, bon, le psychiatre, comme on dit, appuie sur le bouton, voilà, c'est-à-dire qu'il va vous délivrer l'électricité par des petites électrodes qui sont au niveau des tempes. On vous enregistre en même temps la crise, hein, pour être sûr que la crise ait bien lieu, parce que des fois, la personne n'a aucun mouvement, comme elle est anesthésiée, hein, contrairement à ce qui se passait avant, hein, elle va vaguement bouger un petit doigt, hein, ou un petit peu bouger, hein, mais bon, elle bouge, il n'y a presque pas de convulsion visible. Hein. Donc la crise qui est enregistrée sur le tracé, hein, les tracés d'encéphalogramme durent en général 25 secondes, elle s'arrête tout comme ça. Hein. Alors ensuite, après 5 minutes, vous vous réveillez, donc c'est très rapide. Hein. Vous avez à peu près entre 2 et 5 secondes, 9 secondes de stimulation. Vous vous réveillez après 5 minutes et vous restez une heure avec l'infirmier. On vous surveille vos constantes, exactement comme quand vous avez fait une petite opération, hein, c'est pareil. En général, il n'y a pas de douleur. Il peut y avoir quelques céphalées, hein, des petits maux de tête qu'on va traiter en donnant du doliprane, tout simplement. Et la personne n'a aucun souvenir, puisque normalement, quand vous êtes anesthésié, sauf certains cas où les gens se rappellent d'avoir entendu quand ils étaient opérés, le médecin qui parlait, une musique, etc. Bon, mais en général, on leur demande, hein, on les questionne après, on les surveille, et on leur demande, mais qu'est-ce que vous vous rappelez, où vous êtes, etc. Bon. Alors, la personne, dans les heures qui suivent, reprend à peu près une conscience normale. Hein. Elle peut avoir quelques troubles de mémoire, mais de ce qui s'est passé depuis le matin. Quoi, hein, parce que... Alors, les séances sont de 6 à 20. Bon, alors, ce qui est important, c'est que, bien évidemment, c'est des séances qu'on va arrêter, hein, bon, par définition. Si les résultats sont bons, si on a des tests, on a des échelles de dépression, hein, qu'on utilise, bon, ben, et les résultats peuvent être assez spectaculaires. Hein. C'est-à-dire que les personnes, celles qui ne bougeaient pas, qui ne mangeaient pas, qui étaient complètement recroquevillées dans leur lit, qui risquaient d'avoir des escarres, il y a des gens qui ont des escarres tellement ils ne bougent pas, hein, qu'on devait même gaver avec des sondes. Bon, là, ces personnes-là, petit à petit, vont revivre. Elles vont se remettre à manger, elles vont se remettre à marcher, souvent au bout de 4-5 séances. Hein. Et bon, les équipes soignantes sont complètement épatées, les familles aussi, et la personne aussi, hein, puisqu'elles constatent quand même qu'elle va mieux. Alors, il n'y a pas des guérisons à 100%, hein, soyons clairs. Il y a quand même 85% de réussite, ce qui est quand même pas mal. Hein. Mais il y a toujours des résistances, hein, et ça, on ne peut pas le cacher. Cependant, quand la technique marche chez une personne, elle marchera toute la vie. C'est-à-dire que vous ayez 25 ans, 30, 50, 80 ans, on sait que quand vous aurez ce tableau clinique-là, si on vous donne ce traitement, il n'y aura pas de résistance. Ce traitement marchera. Ça, c'est vraiment important.
Ce traitement peut très bien marcher pendant toutes ces années et tout d'un coup, le patient peut devenir résistant au traitement. D'accord ? Et le traitement ne marchera plus. Alors que là, avec le ECT, il n'y a pas de résistance.
C'est
à partir du moment où ça marche.
Hein, voilà. C'est pour ça que c'est un traitement qu'on considère encore un peu à tort de dernier recours, Mais moi, je pense, il y a beaucoup d'hôpitaux, hein, et même dans la région, qui l'utilisent un petit peu plus facilement, en particulier bon, chez des personnes jeunes, puisque bon, c'est quand même très, très dur de rester des mois et des mois et des mois à l'hôpital sans aucune amélioration. Ça, il faut vraiment le dire. Alors, les effets secondaires bon, les plus fréquents sont ceux sur la mémoire. Ça, il faut vraiment le dire. Mais ce n'est pas du lavage de cerveau. C'était auparavant, avec les anciens appareils, les appareils qui datent d'avant les années 90, c'est vrai qu'on donnait beaucoup trop d'électricité. Donc les gens, ils avaient en effet une espèce de lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'ils ne se rappelaient plus ce qu'ils avaient fait, parfois même des années avant. Hein, donc ça, maintenant, c'est beaucoup atténué grâce aux nouveaux appareils et aux traitements sur mesure. Mais ça existe encore. Hein. Il y a quand même des troubles de mémoire qui, j'insiste, parce que bon, maintenant j'ai quand même un certain nombre d'années de pratique, sont toujours réversibles, même si c'est réversible après plusieurs mois, voire une année entière. Moi, j'avais le souvenir d'une dame qui travaillait dans une parfumerie, hein, qui était une personne vendeuse extrêmement compétente, etc., donc, qui avait des troubles de l'humeur, qui a fait un état dépressif gravissime. Donc, on lui a proposé à un moment les ECT qu'elle a accepté. Et c'est vrai qu'au début, alors, bon, elle a été très sensible, hein, et elle allait beaucoup mieux, sauf qu'elle avait totalement oublié toutes les marques de parfum, toute la cosmétique, tout. Quoi, voilà. Alors, elle était extrêmement paniquée parce qu'elle disait « J'adore mon métier, je ne sais faire que ça. » Et 6 mois après, elle avait tout récupéré. Mais c'est vrai qu'il a fallu, pendant plusieurs mois, bon, qu'elle tienne le coup. Elle n'était pas très bien, bon, mais elle a totalement récupéré. Et puis, c'est vrai que, bon, elle a... Bon, depuis, elle va bien avec un traitement de l'humeur, hein, mais ça a été quand même très, très dur pour elle. Alors, autre question qu'on me pose souvent, est-ce que ça abîme le cerveau, hein? Est-ce que ça donne des lésions? Est-ce que ça blesse le cerveau? La réponse est non. Il y a des études qui sont faites beaucoup aux États-Unis. Hein, je vais encore me référer à ce pays, mais c'est un pays où il y a quand même beaucoup de monde et beaucoup d'études, hein, et beaucoup d'argent et beaucoup pour faire des études et beaucoup de sous. Donc, il n'y a pas de lésions du cerveau. On a fait des IRM, des scanners, enfin, toutes sortes d'examens et on n'a rien trouvé. Hein. Alors, bon, est-ce qu'il y a des limites d'âge? Une question qu'on me pose souvent. Alors, on part en général du jeune adulte, voire de l'adolescent. Hein. Mais les pédopsychiatres, éventuellement, nous demandent, c'est très, très rare, hein, mais ça existe. Hein. Bon, mais auquel cas, il faut un avis de plusieurs pédopsychiatres, la famille. Enfin, c'est quand même beaucoup plus compliqué, hein, pour l'adulte. Et on peut aller à peu près jusqu'à 85 ans. Mon patient le plus âgé avait 85 ans. C'était une personne qui était rendue à 35 kilos. Voilà. Et qui était rempli d'escarres, enfin c'était terrible. Et cette personne était vraiment bien soignée. Et elle est venue plusieurs mois de suite faire des séances d'entretien. Hein. Bon, et puis maintenant ça a été arrêté puisqu'elle va bien. Mais... Alors, en gériatrie, et maintenant on travaille beaucoup avec les gériatres parce que bon, vous le savez qu'on a de plus en plus de personnes âgées en France et on s'en réjouit. Mais en contrepartie, ces gens-là, bien sûr, il faut leur proposer des soins et il n'y a pas de raison qu'ils soient moins soignés que les autres personnes. Alors, à Henri Laborie, donc à Poitiers, donc bon, on n'a quand même pas une activité démentielle, hein, c'est-à-dire que là, en 2007, on était à peu près à 183 séances pour environ 13 à 14 patients, hein, puisque de toute façon, on travaille avec le CHU et on ne peut pas traiter plus d'un patient par jour, donc forcément, ça limite. Alors, dans le Poitou-Charentes, à l'hôpital de Thouars, il y a 700 séances par an. Donc, vous voyez qu'ils sont quand même beaucoup plus prescripteurs que nous. À La Rochelle, 600. Il y a la clinique de Saujon, hein, que vous connaissez peut-être, 800 séances. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont beaucoup plus malades à Thouars, à La Rochelle et à Saujon que chez nous. Hein. Ça veut dire simplement que les médecins sont plus habitués à utiliser ce traitement et qu'ils le proposent plus facilement à leurs patients. Voilà, hein. Il n'y a pas plus de malades. Bon, nous, on n'ira jamais plus que 150, 180 séances par an. Donc,
c'est ce que tu disais par rapport aux anesthésistes.
Voilà. Au CHU, où on ne peut traiter qu'un patient par jour. Hein, dans si certains endroits, à La Rochelle, ils en traitent plusieurs patients par jour à La Rochelle et à Saujon.
Pour vous dire quand même que ce n'est pas une pratique complètement rare. Et dans le Poitou-Charentes, hein, c'est une pratique qui est très utilisée, bon, à juste titre, hein, sans excès. Alors, chez le bipolaire, il n'y a pas forcément, je vais reprendre sans être trop longue, quelques indications. Bon, les états dépressifs qui résistent à tous les médicaments bien prescrits, hein, là, on ne peut pas laisser les gens sans rien, hein, on ne peut pas laisser les gens souffrir. Comme disait Madame Rose, il y a une souffrance très importante. Hein, les gens sont mal, sont suicidaires, l'hôpital, ils supportent très difficilement l'hôpital. Enfin, qui peut bien supporter l'hôpital, hein, enfin, c'est très, très dur. Hein. Les dépressions à haut risque suicidaire sont également des bonnes indications. La mélancolie délirante, hein, comme l'expliquait Madame Rose, ou les états catatoniques, c'est-à-dire les gens où vraiment ne bougent plus du tout, sont vraiment des complètement amorphes et à risque aussi de ne plus manger, de ne plus boire et donc au moment de mourir. L'état maniaque, la manie peut être résistant. Hein. Alors c'est vrai que c'est moins fréquemment qu'on va utiliser ce traitement-là pour les états maniaques pour des simples raisons pratiques. Nous, à Poitiers, on accompagne nos patients en salle de réveil. D'accord. Bon, alors, les anesthésistes nous connaissent et ils savent que quand on arrive avec des patients, ce ne sont plus des fous. Mais ça, je préfère le dire parce que ce n'était pas facile quand même pour des médecins qui ne sont pas psychiatres de comprendre que les ECT étaient un traitement correct. Hein. Ça leur paraissait un traitement quand même un peu bizarre, un peu suspect quand même, hein, ce genre de traitement. Quant aux patients qu'on amenait, c'est vrai qu'ils avaient vraiment du mal à comprendre qu'on puisse être malade comme ça. Donc ça a beaucoup changé, mais un peu comme avec les généralistes, on les forme, on échange avec eux. Plus on rencontre les collègues, mieux ils connaissent, hein, ce qu'on fait. Hein. C'est toujours pareil dans toutes les disciplines. Hein. Donc les états maniaques, bon, ils sont très vifs, ils sont très dynamiques, ils hurlent, on arrive dans une salle de réveil où les gens se réveillent tranquillement de leurs opérations. Donc c'est vrai que ça fait un peu de désordre. Donc c'est ainsi qu'on n'a pas eu tellement de cas, mais on en a quand même. Hein. Alors s'il faut, les gens sont éventuellement contenus, c'est-à-dire qu'on va les contenir au niveau des membres, au moins le temps qu'ils soient endormis. Quand ils sont endormis, bon, on va les détacher. Mais ça peut marcher extrêmement bien pour les états maniaques résistants, même parfois beaucoup plus rapidement que pour les états dépressifs. Alors, c'est marrant parce que le patient maniaque à qui on explique ça, il est d'accord pour tout. Hein. C'est formidable, l'électricité, je le savais bien, c'était ça qu'il me fallait, docteur, etc. Vous avez bien raison de me le proposer. Et d'ailleurs, une séance et tout sera fini. Bon. Alors que le mélancolique, quand il parle encore, il vous dit « Ah oui... »
Non, souvent il dit non.
Oui, mais oui, il dit non. Ou alors il dit, mais vous êtes, ce que je veux, c'est de ne plus me réveiller.
Oui.
Tellement ils souffrent. Hein, ils pensent que l'anesthésie et le danger qu'ils imaginent autour de la séance va faire qu'ils ne vont plus se réveiller. Donc ils sont très passifs. Hein, et bon, petit à petit, bon, ils vont mieux. Hein, mais voilà, on peut avoir ces deux cas-là. Alors, quelles sont les indications plus particulières du bipolaire? Alors, il faut les préparer. C'est-à-dire que les bipolaires... Bon, qui ont des traitements, hein, comme le disait Madame Rose, bon, il va falloir un petit peu que ces traitements, on les réévalue, hein, en tout cas avant les séances, puisque vous avez compris que l'ECT va vouloir susciter une convulsion et que les régulateurs d'humeur sont des anticonvulsivants. Vous voyez, donc on a des espèces d'antagonisme. Donc souvent, on réduit la posologie, voire on arrête le traitement le temps des séances. Mais par contre, après, il faudra le reprendre. Hein, parce que si on n'arrête pas le traitement, on va devoir monter à des doses... L'électricité, bon, il y a un seuil. Hein. Les machines sont bridées, c'est-à-dire qu'elles vont de 50 millicoulons jusqu'à 1000. Après, on ne peut pas. Elles sont bridées par le fabricant, Made in US. On ne peut rien y faire. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner le bouton et monter. Ça, ce n'est pas possible. Hein. Les machines, elles sont bridées. Et même si un psychiatre désire aller plus loin, il ne peut pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de machines qui vont plus loin. Hein. Donc, à ce moment-là, ben, malheureusement, si la personne ne réagit pas à 1000, réagit plus. Quoi, hein. Bon. Alors, donc là, il faut bien sûr réévaluer le traitement régulateur d'humeur, au moins avant les séances. Alors, le lithium. Alors, le lithium, il faut ou l'arrêter progressivement, ou du moins ne pas le donner le soir ou le matin de la séance, parce que le risque, c'est les troubles cognitifs, c'est-à-dire les troubles de mémoire qui s'aggravent, un ralentissement psychique... Hein. Donc, on essaye de faire baisser un peu la lithiémie. Bon, au minimum, on arrête hein, la veille et le lendemain. Mais avant, on disait qu'il fallait tout arrêter. Bon, maintenant, on ne le dit plus. Hein. On dit qu'il faut au moins arrêter avant la séance. Et ça, c'est les dernières recommandations hein, qui ont été faites à une conférence où j'ai été il y a quelques mois. Alors, le maniaque, bon, ben, c'est vrai que ça a un effet antimaniaque puissant. Hein. Et ça se potentialise avec les antipsychotiques dont vous a parlé Madame Rose ou les neuroleptiques. Hein. ce qui fait qu'on n'arrête absolument pas les antipsychotiques chez ces patients-là. Au contraire, les deux, ensemble, se catalysent et ça permet de donner moins, justement, d'électricité. Alors, est-ce qu'on peut faire des ECT comme des soins, on va dire, continus ? Est-ce que c'est possible ? La réponse est oui. Très longtemps, on a critiqué les ECT en disant « ça sert à rien, 6 mois après, les gens rechutent ». C'est vrai. Si vous ne faites rien, si la personne s'en va de l'hôpital et qu'on ne lui fait rien d'autre, pas de traitement régulateur, plus ou moins antipsychotique ou ponctuellement antidépresseur, la personne, elle va rechuter. Ça, c'est clair. Mais par contre, bon, dans des cas assez sévères, c'est-à-dire des gens qui, quand même, ont déjà eu beaucoup de traitements qui ne marchaient pas, on va leur proposer de venir tous les 15 jours, tous les mois, faire une séance à l'hôpital. C'est-à-dire, ils arrivent le soir, ils passent une nuit à l'hôpital pour être sûrs qu'ils sont bien à jeun. Le lendemain, ils ont leur séance et l'après-midi, ils repartent. Donc là, moi, j'ai une quinzaine de patients comme ça qui ont ce genre de traitement-là. Alors, des gens qui travaillent, la plupart des gens que je suis dans, ou des gens qui sont maintenant âgés, mais enfin, bon. En ambulatoire, voilà. Alors, en semi-ambulatoire, parce qu'il faut quand même qu'ils passent une nuit à l'hôpital. Alors, il y a des centres. Il y a des centres comme par exemple à Bordeaux, qui est un centre référence en France pour ce traitement, où les gens arrivent très tôt le matin, puisqu'ils peuvent ouvrir très tôt les traitements. Donc, ils arrivent à 6h du matin. Et à ce moment-là, ils partent quelques heures après. Mais chez nous, ça ne se fait pas. On leur fait passer une nuit. Et c'est vrai que parfois, ça permet comme de discuter avec le patient, de voir un peu comment il va, il connaît les infirmiers, il nous voit. Enfin, donc ça permet aussi tout un... Mais c'est de l'ambulatoire, en quelque sorte. Alors, on essaye au maximum, et ça, Madame Rose l'a expliqué, de ne pas forcément donner d'antidépresseurs systématiquement, pour les raisons qui sont qu'au bout d'un moment, ça risque aussi de provoquer des problèmes. Mais bon, pourtant, il y a des patients qui en ont quand même, puisque bon, chaque cas est différent, je le répète. Voilà, donc c'est ainsi que se termine mon exposé. Voilà.
Merci.
Donc, voilà. Alors, si éventuellement vous avez des questions, bien évidemment, bon, je suis là pour vous répondre, puisque c'est pour ça qu'on est là.
On va prendre quelques minutes encore, parce qu'on est supposé libérer la salle à 22h30, c'est ça ? Donc on va prendre 10 minutes, on va en grignoter 5 malgré tout. Est-ce qu'il y a des questions ?
Je peux faire deux remarques. Ah oui. Deux remarques. Sans faire du prosélytisme ou n'importe quoi, j'ai toujours dit, même en temps, enfin quand j'ai commencé à être PA, je praticien hospitalier, à Dr Wedge, bon, qui n'est plus maintenant, et à d'autres médecins qui sont encore en activité, que si personnellement je faisais un état dépressif majeur caractérisé mélancolique, je demandais qu'ils m'administrent en premier des ECT. Donc ils étaient prévenus, ça peut nous arriver à tous ici, à chacun d'entre nous, mais eux étaient briefés, Madame Lévillet, maintenant, c'est, si ça m'arrive, c'est ECT en première intention. Voilà, donc ça c'est clair. Merci de ton exposé. J'ai appris plein de choses aussi. Je suis désolée, ça doit être les troubles cognitifs que j'ai moi aussi. J'ai un petit peu oublié de vous parler, je suis vraiment désolée, j'ai zappé une diapo, je crois qu'il faut en parler quand même, de la luxthérapie, la luminothérapie, qui est très efficace dans les dépressions saisonnières, qui est malheureusement vraiment très peu utilisée en France, alors que c'est extrêmement efficace, si elle est pratiquée à bon escient. Donc je suis désolée, j'ai un petit peu zappé ça. Donc c'est pas du tout, c'est vraiment un excellent traitement. Je passerai sur tous les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent « Oui, mais si je prends des oméga-3, si j'en prends 9 par jour, etc. » Bon, il n'y a pas d'études vraiment importantes qui ont été faites. Chez certaines personnes, ça peut avoir un effet efficace. Mais de là à dire que c'est un traitement du trouble bipolaire, j'aurais peut-être un petit peu de mal. En tout cas, c'est un traitement adjuvant. Et comme je suis très large d'esprit, ça ne me pose pas de problème. Bah oui, quand même, voilà. On m'a demandé aussi pour le millepertuis. Alors, il n'y a pas d'études qui ont été faites sur le millepertuis lui-même. Ceci étant, alors on dit toujours, mais ça ne marche pas le millepertuis, ça ne marche pas. Ceci étant, il est bien noté dans toutes les notices, même si je dis qu'il ne faut jamais les lire, parce que quand on lit les notices, en particulier sur les antidépresseurs, les IRS en particulier, le millepertuis est vraiment contre-indiqué avec. Donc, faut pas d'automédication, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Jamais, jamais, jamais d'automédication. Il y a un médecin traitant,
un médecin psychiatre qui est absolument injoignable en permanence, mais il y a au moins le médecin traitant qui est là et qui peut vous aider. Enfin, je rigole, mais il ne faut vraiment pas faire d'automédication. Ça, c'est vraiment très important. Dernière chose, j'espère que... Enfin, je n'ai pas vraiment insisté là-dessus. Il est vraiment connu et reconnu maintenant. J'ai vu des images, c'est assez spectaculaire, que les médicaments régulateurs de l'humeur protègent réellement le cerveau. Et il existe des photos assez spectaculaires, même de repousse neuronale. D'accord ? Donc, oui, c'est assez spectaculaire. D'accord ? Avec les... Non. Cabane et tous, non, sincèrement. Oui ?
Oui, bonsoir. Vous ne l'avez pas évoqué dans la première partie, mais... Oui, mais entre autres, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui des origines de cette maladie ?
Je le savais. Je les ai enlevées cet après-midi, les diapos, hein, parce que je me suis dit que vous alliez en avoir marre. Qu'est-ce qu'on connaît ? C'est une maladie qui est multifactorielle, multidimensionnelle. D'accord ? Ce n'est pas une chose. C'est en fait une vulnérabilité génétique, ça on le sait maintenant. D'accord ? Il y a beaucoup d'études qui sont faites actuellement pour savoir un petit peu quels gènes ou quels allèles vont être mis en cause dans la maladie bipolaire. Par contre, ça n'a pas un déterminisme unique, comme par exemple la mucoviscidose ou comme certaines maladies. On a le gène, c'est 100%. D'accord ? Là, on l'a, on peut l'avoir, et ce n'est pas un seul, c'est plusieurs. Donc, je ne vais pas vous citer les QR22, je ne pense pas que ça vous intéresse beaucoup, mais on en connaît plusieurs. Et c'est en fait avoir ce déterminisme génétique-là. Ce sont également les facteurs environnementaux et la personnalité propre de chacun. Donc c'est beaucoup de choses. Ça, ce sont les premiers déterminismes. Et après, on peut avoir des facteurs environnementaux primaires, secondaires, dans l'enfance, la petite enfance. On ne va pas tous les détailler, mais il y a beaucoup de déterminismes. D'accord ? Donc la première chose, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est multifactoriel. Et effectivement, il y a un déterminisme génétique, oui. Et je vais vous embêter avec ça, mais comme dans certaines maladies cardiovasculaires, comme dans certains cancers, comme dans le diabète, comme dans plein d'autres maladies. D'accord ? Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Une autre question ?
Je pourrais vous donner aussi les chiffres entre les jumeaux. Donc c'est ce qui a permis de montrer qu'il y avait un déterminisme génétique. Hein. C'est en voyant des vrais jumeaux, le pourcentage de vrais jumeaux qu'il y avait en fait, qui étaient bipolaires quand elles l'étaient, etc.
Oui, bonsoir. Je voulais poser la question. Vous dites que c'est génétique, enfin qu'il peut y avoir un terrain génétique.
Il peut y avoir un terrain génétique. Attention.
On dit la mycoviscidose, oui. On n'a pas toujours trouvé des soins et on recherche. Mm-hmm. Bon, mais je veux dire, on sait que ça commence et que ça peut se terminer par... parce que les soins, parce qu'on est toujours dans la recherche, les gens peuvent en mourir et ils en meurent. Est-ce que la bipolarité, est-ce qu'un jour, on sait, est-ce que la bipolarité ou la dépression, est-ce qu'un jour on peut se soigner définitivement et s'en débarrasser ? Est-ce qu'on peut avoir un espoir ou parce que là c'est
vous posez la question qui est très vaste et qui est philosophique sur la guérison.
Sur la guérison, est-ce qu'un jour il y aura une guérison ou est-ce que on va vivre toujours
Ça c'est toute la question.
Parce que c'est angoissant
alors,
quand même.
Est-ce qu'on peut parler de guérison d'un épisode dépressif ? On peut parler de guérison d'un épisode maniaque ? On peut parler de guérison, à mon sens, hein, d'un épisode hypomaniaque ? Mais il est difficile de parler, enfin j'aurais un petit peu de mal à parler de guérison d'une maladie comme la bipolarité. Alors, ça veut dire être en rémission. D'accord ?
Le traitement peut soulager, mais on peut rechuter à n'importe quel moment, ça peut être...
Ou ne pas rechuter.
Ou ne pas rechuter, ou alors finir...
Voilà.
D'accord, merci.
D'accord. Je crois qu'on peut, plutôt parler de rémission. Je ne suis pas Madame Irma. Enfin, vous voyez, excusez-moi, je ne peux pas dire si on fera zéro épisode. Il y a des gens qui ne font plus du tout d'épisode. Qui a un traitement. Et encore une fois, je n'ai pas du tout voulu détailler parce que chaque personne est vraiment différente. Et un traitement, une personne, c'est comme ça. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même traitement. D'accord ? Et avec ce traitement-là, il se peut que la personne ne fasse aucun autre... Oui ? Aucun autre épisode. D'accord ? Mais de là à parler de guérison, c'est une question qui est...
Excusez-moi, je parle pour un cas général. Enfin, j'ai écouté un petit peu votre exposé, je me suis documentée beaucoup et je m'intéresse parce que, sans parler d'un cas personnel, mais je pense que c'était très jeune... Et c'est vrai que les choses évoluent complètement différemment aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, il y a une prise de conscience. Mais tout ce que vous avez exposé dès le départ, c'était déjà là, il y a très, très longtemps. Maintenant, c'était aussi, est-ce que ça peut, le fait de prendre des soins, de se faire soigner, de se dire, ben, Oui, bon, non, j'arrive pas. J'ai oublié.
Votre question, c'est de dire, c'est est-ce que si on est, plus on est soigné tôt, est-ce que mieux ça va? C'est ça, ça ou est-ce qu'on fera moins d'épisodes? Moins ça va évoluer, c'est ça? Si on le soigne rapidement.
Si on le soigne rapidement, mais je pense que ce qui est important, c'est aussi de prendre conscience qu'on est malade, quoi. Ça, oui. C'est vrai que. Ça, c'est...
Oui.
Enfin, excusez-moi, je parle de moi. Parce que moi, j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps, je me fais suivre. J'en suis consciente et je... Mais il n'y a pas très longtemps. Maintenant, je me dis, j'ai vécu ça pendant 20 ans et j'en parle. J'ai dit, heureusement, si j'avais su il y a 20 ans, j'aurais dû prendre un traitement il y a longtemps. Mais maintenant, est-ce que je vais le prendre jusqu'à 70 ans ou est-ce qu'il faut que je me tue pour que ça s'arrête? Voilà, c'est ma question.
C'est du jour le jour. La question qui se pose là aussi, c'est la reconnaissance du trouble quand on est très jeune. Hein, j'ai rencontré des patients qui m'ont dit, mais en fait, je suis comme ça depuis que je suis tout petit. Et qu'on m'a jamais... les enfants, dans certains cas, sont considérés... Alors bien sûr, je voudrais faire très attention à ce que je dis. Tous les enfants hyperactifs ne sont pas bipolaires et tous les bipolaires ne sont pas hyperactifs. D'accord ? Mais certains, en fait, enfants dits hyperactifs, avec des sautes d'humeur extrêmement fortes et violentes et rapides de courte durée, sont d'authentiques bipolaires. Mais là, ça demande vraiment, j'ai envie de dire, une consultation très spécialisée avec un... Alors déjà, j'ai envie de dire, nous, psy adultes, certains d'entre nous mettent du temps avant de les dépister, mais malheureusement, pour les enfants, c'est... Mais ça vient. Voilà, ça peut être un hyperactif contrarié, ça peut être... Vous avez tout à fait raison. Donc c'est vraiment, c'est très très spécialisé là.
Est-ce que c'est pas une maladie honteuse, justement, de se dire, ah ben j'ai un enfant qui
peut-être... De quoi? D'être bipolaire ou d'avoir un enfant hyperactif?
Un enfant, un problème.
Mais ça a évolué. Je pense, j'espère. J'ose espérer.
Les généralistes
j'allais dire, vous changez visiblement parce que vous
êtes. Les généralistes sont très sensibilisés maintenant à la maladie.
Non, on essaye, parce que Mme Léville fait aussi, on essaye de vraiment de communiquer, et c'est sans aucune prétention de notre part de les former, parce que c'est vraiment une maladie. Encore une fois, quand les gens. Sont maniaco-dépressifs, pour reprendre les anciens termes, ou bipolaires de type 2, c'est-à-dire atténués. Et comme l'a très bien dit madame, au départ, ces patients-là, malheureusement, ne reçoivent que des antidépresseurs. Alors que le traitement qu'ils devraient recevoir est un traitement régulateur de l'humeur au long cours. Donc on essaye de former les généralistes. C'est un peu mon cheval de bataille depuis pas mal d'années.
Ils ont
des
formations.
Hein.
Les généralistes, quand ils voient un enfant qui arrive avec un problème, ne va pas lui donner un antidépresseur.
Ah ben bah j'espère
non,
que non.
Non, alors ça c'est déjà on peut chez les enfants déjà c'est non, pas possible.
Justement, donc qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il soit adulte et puis qu'il pète un câble.
Il faut l'orienter.
Il le pète avant d'ailleurs. On est quand même le pays d'Europe qui consomme le plus d'antidépresseurs quand même. Donc ça veut dire quoi?
Oui, mais là. Oui, non, faut pas. Non, tapez pas sur les généralistes, ils sont très bien.
Parce que ce sont les premiers. On va pas aller nous de même chez un.
Je crois que quand il y a un enfant qui est hyperactif comme ça ou qui a des troubles du comportement et autres, si par hasard il y a des troubles de l'humeur dans la famille ou des troubles psy, quels qu'ils soient, il est important de le signaler dans l'anamnèse
bien sûr.
De l'enfant. Et c'est très important. C'est très important.
Alors là, je ne vais pas du tout d'accord avec vous parce que justement, ça s'appelle menace, personne en danger et tout le monde s'en fout.
Attendez, je me suis mal expliqué là, peut-être.
Non, j'ai bien. Si, si.
Non, de quoi vous pourriez, parce qu'on a.
Vous dites qu'il faut le signaler.
Non, mais attendez.
Si l'enfant va en
consultation. Et que vous dites, l'enfant, il est.
Et qui va en consultation.
Avec ses parents, oui.
Mais il faut passer par le père, la mère, les frères et les sœurs. Voilà, c'est tout. C'est stupide. Le gamin, il est en danger. S'il y a au moins un des parents qui fait la démarche d'aller voir un psy, je suis désolée, on ne laisse pas partir le gamin comme ça dans la nature.
Bien, il va falloir conclure. C'était la dernière question, donc merci beaucoup à tout le monde. Vous en saurez plus sur les généralités, justement, les choses qu'on a rapidement passées, parce que...
Je suis désolée, encore une fois, en particulier pour madame, d'avoir été très rapidement sur certaines choses. Hein,
vous pouvez venir à nos réunions. Tout ce qui a été squeezé ou simplifié est développé extensivement. Donc, vous prenez, si ça vous intéresse, ce petit document. Et vous avez tout dessus. Voilà, il nous reste à remercier le docteur Lévy et le docteur Rose pour ces interventions. Et merci à vous d'être venus. Bonsoir.